future tense. When I'm lost on the open sea, you're the wave that will carry me. J'arrive les amis, je suis en train de faire un post sur Instagram. Voilà, et j'y prends. Je suis pas très fort en Instagram. J'arrive. La musique de façon extrêmement violente, c'est le grand départ. Comment ça va vous? Comment ça, Remake? Non, pas du tout. Remake nous dit dans le chat, je passe en coup de vent afin d'emmener les enfants à l'école. Garde-les avec toi. Garde-les avec toi, bien sûr. On va les initier à aux délices de l'actualité. Qu'est-ce que nous dit? Et le buteur fou, Hail to the King, écrit ceci dans le chat. Le buteur fou, c'est bien sûr une petit clin d'œil à ma démonstration de maîtrise intense, pas du tout sur Rocket League. Dimanche, on s'est régalé. Voilà. Dès que j'ai du temps dans ma vie, je sais pas quand, je m'installe un petit PC de gaming là et j'alterne. Revue de presse, gaming, revue de presse, gaming. Voilà, ça c'est quand je serai full streamer. Comment ça va vous? Ouh là, la journée chargée. J'ai un taxi qui... Ah, on a le chat en double sous cette scène, c'est normal. Ouais, c'est normal. Hier, on a eu des petits problèmes de chat, donc du coup, j'en ai rajouté un. Et il est en double ce matin, c'est normal. Par contre, on va allumer le petit ventilo. Parce qu'il fait plus chaud que je pensais. Hop. Ouais, j'en ai hyper chargé, c'est pour ça que je lève tôt ce matin. 8h pour ce début de stream. On est ensemble jusqu'à 11h. C'est cool, petit stream de 3h. Parce qu'à 11h, il y a un taxi qui vient me chercher pour m'emmener à la maison de la radio ou à 11h45, je crois. Non, je vous dis, je sais plus. Bref, en fin de matinée, j'anime une table ronde à la maison de la radio sur Twitch. Voilà. La question posée à laquelle on doit répondre pendant 45 minutes avec, excusez du peu, Domingo, avec Zach Nani et avec Hugo Decrypt, c'est est-ce que le sport est le nouveau terrain de jeu des streamers slash YouTubeurs. Passionnant, voilà. 45 minutes, franchement, on aurait pu faire 10 heures. Mais on a 45 minutes, et puis après, je crois que je passe ma tête sur la chaîne Twitch de France Info, la radio. Voilà. Donc, 11 heures. Sur quelle c'est pas streamé. C'est pas... Sergius me dit sur quelle chaîne. Je vous avoue que c'est un peu paradoxal quand même. C'est une table ronde sur Twitch, d'accord. Salut Kitagawa. Et je leur dis, alors ok, super, formidable. Donc ça veut dire qu'il y a des gens. Vous savez que c'est comme avant. Il y a des gens qui viennent à la maison de la radio. On peut s'inscrire sur internet, je crois que c'est gratuit d'ailleurs. Peut-être qu'il reste des places d'ailleurs. Il y a plein de tables rondes sur demain le sport, c'est comment on va faire du sport, comment on va parler du sport demain dans le futur. C'est une espèce de réflexion qui est organisée par la maison de la radio, je crois que c'est la deuxième édition, c'est vachement intéressant. Et en fait donc, il y a des gens qui viennent à cette table ronde assister, écouter, compliquer. Donc j'ai demandé tout de suite, bah alors ok super, c'est streamé sur quelle chaîne? Vous streamez ça sur votre chaîne France Info la radio? Est-ce que c'est streamé sur la chaîne de PA, de Zach? Sinon bah moi je vous le stream, hein, je viens avec une caméra, je l'amène Joe, c'est parti quoi. En fait non, c'est pas streamé. Ah ok zut. Ah. Petite mood dit, je me souviens l'an dernier c'était streamé. Ouais, on l'avait streamé sur ma chaîne. C'est pas streamé. C'est un peu con, c'est un peu dommage, c'est pas grave. Voilà. Donc mais en revanche, si vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio France, là, demain le sport, et peut-être qu'il reste des places pour y assister en présentiel. Comme ça, vous verrez PA, vous verrez Zach, vous verrez Hugo, et vous verrez accessoirement votre serviteur. Voilà, donc c'est pour ça que je m'en vais à 11h. J'ai une petite veste, voilà. Petite veste un peu chicos, pour mettre par-dessus mon t-shirt, pour être en mode un petit peu chic. Voilà. Je me suis rasé hier, donc ça va à peu près. Hier, parce qu'hier soir, j'ai participé à une émission sur France 2, une espèce de grand quiz, un peu comme chez l'ami Jiraya, mais là c'était sur France 2, donc il n'y a pas le chat. Et ouais, grand concours entre animateurs, présentateurs et grands champions de jeux à la télé. Voilà. Je ne vous ai pas dit. Il y a MMG qui. C'est qui, c'est Idriss, il t'a encore fini dernier. Je suis meilleur pour poser des questions que pour donner des réponses, je l'avoue. Voilà. Oui, il y a un truc sur la une aussi. Ardéchois me dit, c'est pas sur la une, c'est avant sur TF1. Ouais. Le grand quiz des animateurs. Mais là, c'est un peu le même principe, mais c'est sur la 2. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce que je me suis rasé. Ok, voilà. Et puis cet après-midi, ben, je rentre à la maison, puis je vais faire un petit peu de sport, et puis je vais bosser sur ce qui vient à suivre, notamment l'hebdo Étienne de vendredi. On va se régaler, il y a une belle line-up. Je vais vous annoncer ça, quel jour on est, mercredi. Et puis le samplet de dimanche soir, voilà. Et puis d'autres petits trucs que je suis en train de préparer, voilà. Animé par Olivier Mine, le jeu de France 2. Ouais, pour répondre à la question de MMG7F. Voilà. Donc, dans ce qui m'a fait pour annoncer ce stream ce matin, poster ceci sur Twitter/X, voilà, avec cet humour voilà, très personnel. 8h la matinée Étienne sur Twitch, on y est, pas de souci. 11h30, table ronde à la maison de la radio sur Twitch, voilà, mais qui n'est pas streamé sur Twitch. Bon. Le plan secret pour une candidature surprise à la présidentielle de 2027 avec campagne express sur les réseaux sociaux et sur les rails. Ça effectivement, ça c'est un plan bien secret, bien préparé. Voilà. Voilà. Voilà, plus accessoirement, on fera peut-être un petit peu de sport. Bon, comment ça va vous? On va lancer très vite ce stream parce que, un, j'ai plein de beaux articles, belle actu, des trucs vraiment intéressants à vous raconter, sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Et deux, j'aimerais bien garder une petite... demi-heure à la fin pour vous faire bosser, voilà. Puisque comme j'anime cette table ronde sur le sport, nouveau terrain de jeu des streamers youtubeurs, bah, j'aimerais votre avis un peu quoi. En vrai j'ai pas trop bossé, je voudrais juste vous piquer vos idées, voilà. Donc vers 10h30 j'ai besoin de vous, hein, si le thème vous inspire, le sport, nouveau terrain de jeu des streamers, point d'interrogation ou pas d'ailleurs, hein, on pense au GP Explorer. On pense à ce match de foot insane France-Espagne organisé par Amine. On pense à ce que PA a pu faire en matière de basket, en matière de cyclisme, en matière de tennis. Voilà. On pense à la passion de Zach pour le sport. On pense à ce que fait Hugo sur Instagram, notamment sur son compte Insta dédié au sport. Mais ça peut être plein de choses aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre d'ici 2h30 ce petit débat. Je vous lis un petit peu puis on démarre tout ça donc. Ok. Bon, je remercie aussi Bozo My Bro, merci pour le 7e mois d'abonnement, Tant de Chat pour le 15e mois et merci du soutien. Le replay est là pour ça aussi. Pointer View, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Kitagawa qui je crois est pour la première fois avec nous. Mr Fred Bull, avec un pseudo comme ça, tu dois être hyper réveillé tout le temps, toi c'est trop mignon. Merci pour le 14e mois. Lost in Maze, comment vas-tu? Merci pour le 22e mois, les habitués sont là. 3N1XS, je prononce n'importe comment, merci pour le 3e mois. Doka, merci pour le Prime. Cuspipe, merci pour le 3e mois. Zidamstrong, ah c'est moitié Zidane, moitié Armstrong, c'est drôle. Merci pour le 7e mois d'abonnement, c'est adorable. Allez, je vous lis un petit peu. Et à 20 minutes de stream, on lance le sommaire. On est en mode efficace, on est en mode radical ce matin. Bon petit déj, Alexandra. À question pour un champion, est-ce que tu arrives à retenir les réponses des questions que tu poses? Oui, Flo Flobo, une partie, sauf sur un truc qui ne m'intéresse pas. Voilà, le cerveau est bien fait, à un moment il ne fait pas d'efforts sur les trucs qui me hype pas trop. Genre la mythologie, ado j'aime bien ça, puis là ça ne m'intéresse pas. Plus trop la mythologie. Donc j'ai pas mal de questions sur la mythologie. Je ne retiens rien, mais volontairement. En revanche, la musique, l'histoire, la littérature, le cinéma, un petit peu le sport, j'essaie de retenir des trucs. Voilà. Merci Natsuki pour le soutien. Alors, qu'est-ce que vous racontez ce matin? On n'oublie pas les subatons du jour. Ouais, hier on a. Est-ce qu'on arrête? On arrête qui hier? C'est aujourd'hui qu'il lance d'ailleurs son subathon Kenny, mais c'est en fin de journée, c'est ça. Il y a Moment qui est en subathon aussi. Ouais, tu vois, on y pensera. On arrête qui hier? J'ai plus, putain, j'ai aucune mémoire, c'est affreux. Il y a Tsuka qui dit PA a toujours fait du sport, c'est pas nouveau. Hey, c'est pas une table ronde sur PA hein, tout à l'heure hein. C'est une table ronde sur le sport sur Twitch. Comment ça vous faites une table ronde vous avez parlé de PA du sport, mais c'est pas nouveau. C'est pas une table ronde sur PA, c'est une table ronde sur le sport sur Twitch. Donc on a vite PA. Ok, on envoie plein de force à El Famoso. Entretien d'embauche à 9h, je croise des doigts. 9h, mais t'es en retard, il est 9h15. La blague pourrie. Est-ce que tu as eu une demi-seconde de panique? C'est monstrueux ce que je viens de faire. Est-ce que tu as eu une. T'as vu, j'ai envoyé mon rire bêta très vite pour que tu ne penses pas qu'il soit effectivement 9h15. Bon. On t'envoie plein de force pour ton entretien de 9h. Allez, j'en monte dans le chat parce que ça me fait du plaisir, ça me fait du bonheur. Hop. El Famoso, j'ai laissé une trace dans le caleçon. Ouais, ok. Yann, imagine un gars qui arrive en sueur à l'entretien à cause de Samuel. T-Rox Fox, même moi j'ai paniqué. Elle était pas mal ma blague. Oh, c'est mignon. Alors ça me touche beaucoup. Il y a un message de Charlotte dans le chat qui dit bonjour Étienne. Appelle-moi Samuel, hein, on est entre nous. Étienne, c'est mon nom de famille, mais c'est normal, les gens qui ont des noms de famille en prénom, c'est une horreur. Même moi, je ne sais pas comment je m'appelle. Bonjour, donc ma maman m'a raconté que tu étais dans le même collège ou lycée que ma tante et qu'on te voyait tout le temps marcher en train de lire. Est-ce vrai ou pas? Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ce métier de journalisme d'ailleurs. C'est mon super pouvoir à moi. J'adore lire. Voilà. Depuis tout petit, en fait, je suis fasciné par la chose écrite, quel que soit son support, roman, bouquin de philo, journal, bien sûr, derrière du paquet de céréales. J'adore lire ce qu'il y a derrière les paquets de céréales. Voilà. Et donc, effectivement, je passais mon temps à lire tout le temps, très, très tôt, notamment au collège et au lycée, et j'avais toujours un livre à la main. Voilà. Trop mignon. Embrasse ta tante, embrasse ta tata, embrasse ta maman. Voilà, mais c'est une vraie histoire. Ah, Marie Kigaï, bien sûr. Premier raid vers Marie Kigaï, j'étais bien content parce qu'on m'avait dit beaucoup de bien de Marie Kigaï, la streameuse, notamment Joe. Et voilà, j'ai pu la raid hier soir. Hier midi plutôt d'ailleurs. On va essayer de raid un quelqu'un qui est en subathon aujourd'hui. Hein, vous me ferez penser tout à l'heure. Quick 222, merci pour le 25e mois d'abonnement. Point of view, merci pour l'abonnement offert à El Famoso. Mamie Suzanne, je t'embrasse, merci d'être avec nous. Étonnant que tu n'aies pas eu encore l'idée d'écrire un livre. Bast, alors je vais t'expliquer. Un jour, j'ai lu une phrase de Rilke, l'écrivain allemand ou autrichien, qui a écrit « Lettre à un jeune poète ». Et dans cette lettre à un jeune poète, Rilke, donc qui s'adresse à un jeune homme qui se pique d'écrire justement de la littérature, des vers, il dit en fait « N'écris pas à moins de ressentir l'impérieuse nécessité d'écrire. » Voilà. Et moi, je trouve qu'on, je pense qu'on écrit trop. Quand tu vois la rentrée littéraire en France avec des centaines de romans, quand tu vois tous les bouquins qui sortent et la quantité de livres qui partent au pilori, c'est-à-dire qui ne sont pas lus, en fait, qui sont jetés, en fait. Et moi, je pense qu'on écrit trop. En France, on aime bien écrire des bouquins. Voilà. Je crois que ça fait un peu stylé aussi. Vraiment, tout le monde veut écrire. Ouais, moi, j'écrirai un bouquin. Non, non. Mais en fait, il est autrichien, Rilke. Merci. Mais non, n'écrivez pas, en fait. N'écrivez pas. Hein. Ne parlons pas des livres des politiques, hein, qui sont vendus à 2 exemplaires parfois. Il y a des chiffres hallucinants. Non, mais n'écrivez pas, en fait. En fait, la littérature, l'écriture, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de... Oh, faut faire... On écrit... Tu n'écris pas comme tu vas aux toilettes, chouchou. Mais non, en fait, on n'en veut pas de ton livre. Tu vois ? Non, non, arrêtez d'écrire. Trop. Voilà, laissez l'écriture à ceux qui ressentent l'impérieuse nécessité d'écrire. Hein, il faut, disait Rilke, en gros, je dis ça avec mes mots, il faut que ce soit impérieux comme de respirer, comme de manger, comme de boire de l'eau. Voilà. Donc, et moi, j'ai jamais ressenti vraiment cette impérieuse nécessité d'écrire. Lire, oui, j'adore, mais écrire, il faut que ça s'impose à vous, il faut que vous n'ayez pas le choix, il faut que vous ayez besoin de coucher des mots sur le papier pour avoir l'impression d'exister. Je ne ressens pas ça, donc je n'écris pas et je préserve le monde de ma prose, et le monde s'en porte bien mieux comme ça. Voilà. Ça doit venir du ventre, comme dit Sainte Barmine. Voilà, exactement. Et pas de l'ego en mode, ah, tiens, je me mettrais bien à écrire, j'écrirais bien un livre. Ah, t'as vu, j'écris un livre. Ta gueule. Pardon. Bon, j'ai écrit un livre sur les croque-monsieur, c'est vrai, si vous cherchez sur Internet. 1001 recettes de croque-monsieur, c'est vrai. C'est un petit peu mon à la recherche du temps perdu à moi, ouais, j'avoue. Faut avoir la ref, hein, mais... Bon, ça, il y en a beaucoup qui ont la ref. Il y a un long message qui est très sympa. Ah, c'est trop mignon. C'est Cassé Lula, merci pour le 4e mois, qui me dit « Salut Sam, demain matin, une streameuse youtubeuse au nom de Gwen sera présente au même event que toi. Elle a annoncé en live, elle a dit qu'elle était trop contente mais trop timide pour te demander une photo. Si... Alors je pose ça là, si jamais elle adore ton contenu et qu'on aborde régulièrement en live, trop gentil. Tu pourras la reconnaître à ses tatouages et à son sourire qui sera le plus beau que tu pourras croiser demain. Mais c'est trop mignon. Mais est-ce qu'on a le droit de dire quel est cet event, hein? Tu parles bien de demain sur un circuit automobile avec Jean Légat de Villebrequin, ou tu parles de ce matin à Radio France? Voilà. Ok, Cassé Lula me dit demain, mais pas d'infos. Ok. Bon, j'ai rien dit. Ok. Donc, Gwen. Ok. Attends, je me fais un pense-bête. Donc, je fais une capture d'écran. À mon âge, une capture d'écran, c'est prendre une photo de ton écran. Voilà. Louette n'est pas d'accord avec moi, mais c'est dommage de briser la créativité comme ça sous prétexte qu'elle ne tire pas son origine d'un besoin impérieux. Si, franchement, si. On écrit trop. Il y a Sariel Rose qui dit, quand tu bosses en bibliothèque, ce qui est peut-être son cas, ton cas, le nombre de personnes qui se présentent en disant j'ai écrit un livre, est-ce que vous voulez pas l'acheter? Bah non, mais non, on veut pas l'acheter. En fait, on veut même pas le lire, en fait. Arrêtez, quoi. Arrêtez d'écrire. Je suis méchant. Mais en fait, voilà, moi, pour moi, la retraite qui arrive là bientôt, j'espère, quand j'aurai mes trimestres de retraite, si on me laisse travailler jusqu'au bout, si on me laisse cotiser, ce sera une retraite illuminée par la littérature. Voilà. J'ai arrêté de lire parce que je manque de temps entre le travail, la famille, tout ça. Donc j'ai arrêté de lire, alors que ça devrait être une activité essentielle. Donc j'ai arrêté de lire. Et quand va arriver le temps béni de la retraite, c'est-à-dire quand je serai payé à rien foutre avec votre argent? Puisque c'est retraite, système par répartition, et le plus longtemps possible, je lirai toute la journée. Voilà. Et je boirai des cafés, voilà. J'irai au salon de thé, et je lirai. Voilà. Je retrouverai le bonheur de l'enfance et de l'adolescence, toujours un livre à la main. Voilà. Si, et puis je jouerai aux jeux vidéo aussi. Un roman à conseiller? Oh, il y a tellement, tout est. René de Pestre. Écrivain haïtien qui a écrit sur les femmes, Rilke dont je parlais, Camus plutôt, ses livres sur de philosophie, Borges, je sais jamais comment on prononce, l'écrivain argentin prix Nobel de littérature qui a écrit sur les labyrinthes, sur les miroirs, sur la notion d'infini. Un écrivain, Bobin, Christian Bobin, qui est mort il y a pas longtemps. Voilà. Une écriture toute simple, toute lumineuse, qui était chaque mot est de la lumière en fait, voilà. Qui célébrait au quotidien les tout petits plaisirs, un rayon de lumière sur qui rentre par un carreau de fenêtre, un enfant qui joue, voilà, des mots incroyables, Christian Bobin, ouais. Oui, Hermann Hesse, oui bien sûr, Gresbo, Le Loup des Steppes par exemple je crois. Puis les classiques, j'ai adoré Balzac, j'ai adoré Zola. Roman coup de cœur de ta jeunesse, qu'est-ce qui m'a marqué? Ouais. Cohen aussi. Si vous êtes un garçon, Cohen a écrit un livre incroyable sur sa mère disparue, Albert Cohen. Le livre de ma mère. Oh. Si vous êtes... Alors je dis si vous êtes un garçon, parce que c'est vraiment un garçon qui parle de sa maman. Je suis pas sûr que ça puisse toucher autant les filles, mais je sais pas, faut essayer. Cohen. Albert Cohen, Le livre de ma mère. Voilà, si je vous défie de lire. Non, c'est pas Patrick. C'est Albert Cohen. Je vous défie de lire Le livre de ma mère sans pleurer. C'est incroyable. Voilà. Belle du Seigneur, bien sûr, de Cohen, bien sûr. Francis dit le merveilleux dans l'ordinaire, Christian Bobin. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Allez, bon taillage de haies à Orso qui est en train de tailler ses haies. Et puis, maintenant, je vous propose un petit sommaire. Vous allez me dire tout de suite comme ça? Oui, parce que ce matin, à 11h, on arrête. Est-ce qu'on y va? T'es bourré? Il y a Tisane Time qui est bourré. Qui dit, mais le château de ma mère, c'est Pagnol, voyons Sam. Le livre de ma mère. Le livre de ma mère. Pas le château de ma mère. Tisane, tu t'appelles Tisane Time, mais tu ne bois pas que de la tisane, hein? Bordel! Ou alors j'ai peut-être fourché. J'ai fourché? J'ai dit le château de ma mère à un moment? Je crois pas, hein, si. Ah merde, putain, je me suis fait avoir. Il y a Tisane Time qui dit le second degré n'est pas qu'une brûlure, Sam. Ok. Mais mets-moi on n'entend pas le second degré là, dans ta phrase. Mets-moi un petit émote là, un petit smiley là. Hein. Sérieux, à un moment, il faut prendre les gens par la main, quoi. Il y a des gens, même ici sur cette chaîne de qualité, qui sont capables de dire ça, hein, de l'écrire. Hein. Mais le château de ma mère, c'est un livre de Pagnol. Ça, il y a des gens qui l'écrivent ça ici, hein, bon, tous les jours. Hein. Donc il faut que tu mettes une petite émote, hein, si tu veux. Pas te prendre une petite scude là. Je persiste à croire que t'es bourré quand même. Hein. Eldada95, merci pour le 4e mois d'abonnement. Santé, mais pas des pieds. Tu as bien raison, merci beaucoup pour le 14e mois d'abonnement, c'est adorable. Êtes-vous prêt pour un sommaire? Oh putain, le dieu, il m'a fait peur celui-là. Est-ce que vous êtes prêt pour un sommaire? J'ai des choses pas mal ce matin, je suis assez fier de moi. Ouais, c'est parti. Yes, baby, ok.
Yeah, baby.
Putain, J'en ai une dizaine de yes comme ça, c'est celui que je voulais. Trop top. On y va? Alors c'est parti. 3, 2, 1. Petit sommaire, l'essentiel de l'actu en 5-10 minutes. C'est pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures, qui ont des trucs à faire ce matin. Merde. Pourquoi? Petit réglage. C'est pas grave. Bougez pas. Hein. Allez chercher les journaux. Petit souci du côté des gâteaux. C'est branché. Un moment, s'il vous plaît. Ok, petit réglage. Parfois, il suffit juste de débrancher, de rebrancher. Oui, ce n'était que ça. Ok, c'est cool. C'est parti pour le sommaire, les amis. Donc, on va parler d'écologie ce matin avec des annonces attendues dans les prochains jours du chef de l'État, du président Macron, sur le changement climatique. J'aime bien afficher les messages qui sont effacés par les modos parfois. D'accord, ok. Oh, oui, bon, oui. Donc, Macron repart à l'assaut du réchauffement climatique, nous dit le Figaro. Alors évidemment, on imagine que le réchauffement climatique tremble hein, devant ces annonces attendues. Je fais déjà du mauvais esprit. Donc, le Figaro nous parle de ça, de cette initiative à venir. L'humanité, elle nous explique que hier justement, Elisabeth Borne, la première ministre, a reçu à Matignon la plupart des chefs de parti majorité opposition pour évoquer ce qui va être annoncé, la planification écologique. Voilà. Je spoil, les partis de gauche, notamment Europe Écologie Les Verts, pas super convaincus par ce qui a été annoncé. C'est-à-dire la philosophie générale, ouais, mais avec quels moyens, voilà. Et puis, puisqu'on parle d'écologie, je vous ai fait une petite page écologie ce matin parce que c'est juste quand même un des sujets essentiels de l'actu. Au quotidien, avec un petit portrait du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est un Portugais, ancien Premier ministre portugais, et alors qui s'illustre régulièrement, et vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité, par des déclarations très engagées, très... Là, c'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait le truc là-haut, là. Ouais. Ah oui, vous avez raison, il a bugué. L'iPad a bugué, il a frisé. C'est pas grave, regardez. Voilà, c'est rien. Donc ça, c'est le papier de l'humanité dont je vous parlais. Et ici, donc, un portrait d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui s'illustre régulièrement par des formules choc, en fait, pour dénoncer l'inaction à travers le monde des pays, des entreprises, face aux défis qui sont devant nous. Voilà, grosse page environnement, changement climatique ce matin, c'est assez intéressant. Team Petit Pain, ça c'est forcément un ami de Pépipin, notre streamer préféré. Merci pour le 11e mois, Estoff 31, merci pour le 2e mois d'abonnement. Alors ça c'est pour l'écologie. Alors, je vois la une du Parisien et je vois le roi britannique. Bobine Bookin, merci pour le 14e mois d'abonnement et merci pour ce joli pseudo. Il vient en France. Alors je me dis, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est intéressant? C'est quand même la une du Parisien, un journal qui vous met une actu en une, ça veut dire que cette actu, aux yeux de la rédaction, est importante. Donc, est-ce que c'est important? Oui. Enfin, c'est intéressant. Important? Je sais pas. Intéressant, oui. Alors, on verra pourquoi d'abord il vient, pourquoi cette visite a été reportée, parce que ça devait être le premier déplacement à l'étranger, à l'international de Charles. Charles III, c'est ça? Ouais. Charles III, depuis son couronnement, après son couronnement, finalement, ça a été pour l'Allemagne. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en raison des meutes à l'époque. Donc, pourquoi le report? Pourquoi il vient? Pour faire quoi? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est une grosse partie de l'article sur la réception à Versailles. Alors, ça va être folie. Avec quelques invités triés sur le volet, je n'en suis pas, vous n'en êtes pas, à moins qu'il y ait des ministres ou des grands chefs d'entreprise dans le chat ce matin, voilà. Et on connaît le menu. Et puis on se penche aussi sur cette première année de règne de Charles III. Oh merde, pas les émeutes, bien sûr, tu as raison, François, pardon. Pas les émeutes, les manifs contre les retraites, autant pour moi, mais oui, carrément, tu as raison. Le report de la visite de Charles III, qui était prévu il y a quelques mois, c'était pas du tout les émeutes, c'était les manifs contre les retraites. My bad. Merci François d'être là, merci de ton attention. J'appelle ça l'info augmentée quand vous corrigez les infos ou que vous les complétez. Merci Koumak pour le Prime aussi. Voilà, donc on va se pencher sur cette première année de règne de Charles III. Alors là aussi, même question, est-ce que c'est important? Voilà. Libération met à la une ce matin la maison musée de Serge Gainsbourg, alors à mon avis qui est pas forcément très connu des jeunes générations, mais immense chanteur, immense compositeur, immense artiste, à la réputation sulfureuse, qui n'est plus parmi nous. Et donc sa maison, son petit hôtel particulier à Paris, qui en fait était inoccupé, était resté, disait la légende, dans l'état où il l'a laissé le jour de sa mort, qui était devenu la propriété de sa fille Charlotte Gainsbourg, ouvre au public, voilà, cette maison comme un musée à la mémoire du chanteur. C'est Charlotte Gainsbourg qui s'est occupée de tout, c'est Charlotte Gainsbourg qui est l'invité de Libération et qui en parle, voilà. Donc Sarah me dit, j'ai lu un extrait de cet article, c'était assez immersif, oui. Ouais. Ouais. Non, c'est pas une question d'argent, Artscorp. Artscorp croit savoir qu'il n'y avait pas d'argent pour entretenir la maison. Du coup, c'est pour ça que ça devient musée. Non, en fait, non. Je pense que ce truc lui a coûté plus de thunes, d'ailleurs, le musée, que ça va lui rapporter. Enfin, je ne suis pas sûr que ça rapporte beaucoup d'argent. Non, 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 la maison était restée comme ça, en fait, parce que Charles Gainsbourg ne voulait pas. Ni la vendre, ni habiter, ni, voilà. Elle explique dans Libération, d'ailleurs, elle dit comment régulièrement elle allait dans cette maison, voilà, pour passer un moment avec son père, avec la mémoire de son père, et sentir cette odeur, l'odeur de cette maison, inchangée, voilà. Et elle y allait notamment le jour anniversaire de sa mort chaque année. Donc c'est pas une question d'argent, à un moment, faut pas tout rendre prosaïque comme ça, hein. Donc on lira ça. C'est alors à la question, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Pas tellement de savoir ce qu'il y a dans cette maison musée, mais plutôt le long processus qui a fait que pendant 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, pendant 30 ans, Charles Gainsbourg n'a pas touché à cette maison. Voilà. Et pourquoi elle a décidé de l'ouvrir aujourd'hui à tout le monde, puisque vous allez pouvoir tous y aller, en prenant votre mal en patience, parce qu'il y a plusieurs mois d'attente. Les gens ont acheté leur place en masse et il y a plusieurs mois d'attente. Voilà. On lira ce joli papier dans Libé, c'est bien écrit. Alors, un papier dans Le Parisien, un portrait d'Alison Wheeler, j'espère que je prononce bien, l'humoriste, hein, qui a passé 5 années dans l'émission quotidien de Yann Barthès. Voilà. Et qui passe à autre chose, voilà, qui pour la première fois va présenter son spectacle, son One Woman Show. Voilà. Elle, je crois que ça y est, la tournée a commencé. Un peu partout en France, et puis ça arrive à Paris en décembre, voilà. Et Alison Wheeler, alors il y a Caradoc qui dit je l'adore, elle me fait mourir de rire, MMG7F, j'aime bien son humour. D'autres compliments sur Alison Wheeler, vous l'aimez bien ou pas? Ça m'intéresse. Est-ce que vous l'aimez bien? Connais pas, elle est trop drôle. Elle va chez Hanouna. Non, elle va pas chez Hanouna. Elle ira jamais chez Hanouna. Non. Ça fait bizarre quand tu l'as connue au début sur YouTube avec Studio Bagel, me dit Phoenixos. Certains connaissent pas. Top, me dit Roger. Twisted Art, je confirme, elle me fait très rire aussi, beaucoup de talent. Et même CTF me dit, elle serait pas mal dans l'hebdo Étienne. Eh bien, Alison Wheeler est calée dans l'hebdo Étienne. C'est-à-dire qu'Alison Wheeler va venir, pas ce vendredi, je crois, mais le vendredi d'après, dans l'hebdo Étienne. Parce qu'on est comme ça, l'hebdo Étienne, on vous cherche les meilleurs journalistes, les meilleurs streamers, les meilleurs youtubeurs, les meilleurs humoristes, voilà. Et voilà, et c'est comme ça. Et je l'avais calé bien avant cet article, d'ailleurs, il y a quelques semaines, on a eu un échange assez amusant sur Insta, tous les deux. J'ai dit, mais viendez à la maison, donc Alison Wheeler sera là, pas vendredi, mais le vendredi d'après. Et j'en suis très content. On lira son portrait. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas, vous saurez qui c'est. Et puis, on finira en beauté. Regardez-moi. Enfin, c'est l'avant-dernier papier. Regardez ce beau papier. Une pleine page, hein, quasiment, dans Le Figaro, qui est un des journaux qui s'intéresse le plus à l'univers du jeu vidéo. Eh ouais. Une pleine page dans Le Figaro sur GTA V. Hein, sur une décennie, les chiffres sont fous, donne le tournis d'un succès hors norme pour l'industrie du jeu vidéo. Mais quand j'ai vu les chiffres des ventes de GTA, mais c'est une dinguerie. Donc succès hors norme pour l'industrie du jeu vidéo, c'est Chloé Voitier qui écrit sur le numérique et sur les jeux vidéo, sur Le Figaro, qui nous fait un beau papier. Je ne connaissais pas bien le phénomène GTA. Bon, voilà, j'ai tout compris. Voilà. Alors voilà, et un article qui évoque notamment le GTA 6. Voilà. Regardez les bons souvenirs, la nostalgie. Hein. Guigui Franco, septembre 2013, restera jamais aggravé dans mon cœur. Vive GTA. Ouais, folie, ouais. Idriss, Sam, tu n'as pas un peu survendu les articles de la revue de presse de ce matin? Non, je demande à être surpris. Non, hier franchement, j'ai failli pas streamer. Hein. Bon, je n'étais pas super hypé par les articles. Non, là, c'est de la régalade de partout. Ouais. Alors, GTA, d'après mes infos, c'est un jeu assez tranquille, assez chill, je crois. Assez conseillé aux enfants. Avec des principes moraux assez élevés. Voilà, on est sur le beau, on est sur le doux, sur l'humain, sur le gentil, d'après les infos que j'ai collectées. On est sur un jeu d'amour. Hein. On est sur un jeu d'amour, hein, de don de soi. Voilà, hein, comme le dit Décali, pour résumer, pas de drogue, pas de sexe, pas de mort. Voilà, c'est ça. Je pense que je vais jouer avec Malo. AEG résume donc GPA pour ceux qui ne connaissent pas. Tu cueilles des fleurs, des champignons, tu chantes aux oiseaux. Voilà, un jeu un petit peu bisounours quoi. Voilà. Oh, j'aimerais bien jouer à ce jeu. Et puis on finira avec ça. Il y a en cette rentrée là, les médias traditionnels, la télé. J'ai dit GPA au lieu de GTA. La télé fait feu de tout bois pour séduire les jeunes. Les jeunes, voilà. Notamment, c'est France Télévisions qui lance un JT pour les jeunes, pour les 12-18 ans, voilà, pour les ados, en fait. Voilà. Radio France fait des trucs aussi, avec Léo Teicher, qui je me demande si Léo reprend pas l'animation de la chaîne Twitch de France Info, la radio. D'ailleurs, bref, il faut que je regarde ça. Donc les médias audiovisuels courent après le jeune public parce qu'en fait le constat de cet article dans Le Monde, c'est que longtemps les médias traditionnels ont vu partir les jeunes qui ne regardent plus la télé, qui n'écoutent plus la radio, qui ne lisent plus les journaux, voilà. Et aujourd'hui ils ont décidé de réagir en proposant des nouveaux formats qui sont d'ailleurs diffusés sur YouTube, sur Instagram, etc., pas forcément à la télé, pour séduire les jeunes, notamment des formats d'information. On verra ce qu'il y a dedans, vous me direz ce que vous en pensez, puis on verra si effectivement ça peut séduire ou pas. Tu vois, il y a par exemple Alastair qui dit spoiler alerte, ça va pas marcher. Est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà, dans la conquête de ce public qui n'est plus là, quoi. Qu'ils essayent de dire des choix, ma foi qu'ils essayent. La Condamine 46, merci beaucoup pour le 21e mois d'abonnement. Coco PB 76, j'avais pas vu, merci pour le 10e mois d'abonnement. Et à l'instant SGD 246, merci pour ton transformation de Prime en abonnement de niveau 1. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air formidable. Voilà. Mais que font les jeunes? Mais oui. Oui. Ah, non, si. Les jeunes sont pas partis, ils sont jamais arrivés. Vidge, ça c'est une phrase de jeune, ça par exemple. Il y a Vidge qui dit les jeunes ne sont pas partis des médias traditionnels, ils sont jamais arrivés. Si, à une époque, les jeunes regardaient la télé. Moi, quand j'étais jeune, je regardais la télé un petit peu, hein, parce qu'il n'y avait pas Internet, mon chouchou. Ça n'existait pas. Moi, Internet, je l'ai connu adulte. Donc, à une époque, on était devant la télé parce qu'il n'y avait que ça, en fait. Donc, on regardait les dessins animés à la télé, Récré à deux, tout ça. On regardait un peu les films à la télé. On regardait les émissions politiques à la télé, L'Heure de Vérité, François-Henri de Virieux, tout ça. On regardait les émissions culturelles à la télé, Cercle de minuit, Michel Field, tout ça. Les émissions littéraires, Apostrophe, tout ça. On regardait Les Enfants du Rock, une émission de fou sur Antenne 2 à l'époque, avec il y avait Decaune, il y avait que des dingues, c'était incroyable. Les Enfants du Rock, émission musicale, tous les courants musicaux, rock, new wave, punk, disco de l'époque. On est sur les années 80, c'est une dinguerie. Non, en plus il y avait des trucs super. Donc non, les jeunes ont été devant la télé, les jeunes ne sont plus devant la télé. Il y a Xara qui dit ah oui, les jeunes de 50 ans, ok, oui, les jeunes d'avant. Qu'on a été jeunes. Donc les jeunes ont été devant la télé. Ils ne le sont plus. Alors l'objectif des médias, c'est de les ramener. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Je suis bien avec ma pub sans Pellegrino. Moi. C'est fou ça. Alors, je vous lis un petit peu. Et à 45, c'est-à-dire en 2 minutes, on lance cette revue de presse. En regardant une petite demi-heure à la fin pour échanger sur Twitch et le sport pour préparer ma petite table ronde de Radio France de tout à l'heure. Les films du dimanche soir étaient un vrai événement à Scorps. La télé, c'était quelque chose. Hein. La télé, c'était quelque chose. Quand il n'y avait pas Internet. Oui. Je vous lis. Pourquoi il n'y a plus de jeux à la télé? Comment ça? De jeux de culture générale, genre question pour un champion? Mais c'est gavé de jeux, ouais, non? Tu parles peut-être pas de jeux de culture générale? Sinon, 18h10, France 3, tous les jours, meilleur jeu de la Terre, animateur, mode beau gosse, brillant, sémillant, un peu sexy, le poil brillant. En vrai, n'hésite pas, hein, 18h10, hein, de la culture, du sourire, de la déconnade, enfin, c'est l'émission parfaite, quoi. Cartonne, d'ailleurs, ça cartonne. 18h10, France 3, va voir. Comment ça, tu as été jeune, dit Alastair. Vous avez fini, ouais. Dixon 9, je t'ai rajouté un 7, pose la question essentielle ce matin. Hein. Excusez-moi. Est-ce que depuis que tu fais ça me plaît, je vous rappelle que dimanche prochain on jouera avec Jiraya à Mario Kart, est-ce que tu as commencé à jouer aux jeux vidéo? J'en rêve. J'en rêve de trouver le temps de streamer du jeu vidéo et de vous faire rire avec mon niveau de zouzou. Faut juste que je m'installe le petit setup qui sera bien pour ça, où je rachète un PC, je crois. Et aussi que je trouve le temps. Voilà. Non, Motus, ça n'existe plus. Maïté. Ou Mate. La télé est devenue trop aseptisée, elle n'attire plus. Charles, je sais pas quoi penser de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas de la nostalgie? Tu sais, c'était mieux avant. Moi aussi, j'ai l'impression que je regarde pas la télé. Et je l'ai regardé pourtant. Alors, je pourrais penser en mode nostalgie. Ah oui, c'était mieux avant. Mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas, en vrai. Peut-être que les nouveaux écrans sont plus disruptifs, sont plus libres. Je pense à YouTube, je pense à Twitch, peut-être. Ouais. Peut-être, la liberté d'expression n'est pas la même. Hein. Quand tu n'engages que ta parole, que ton image, que ta responsabilité sur ta chaîne, tu es beaucoup plus libre que quand tu travailles sur une chaîne où tu engages l'image de la chaîne, l'image de tous les gens qui travaillent avec toi, l'image d'une rédaction quand tu es journaliste. Donc ta liberté, en fait, c'est pas une... comment dire, c'est pas que tu es moins libre. Personne ne te demande de restreindre ta liberté, c'est juste qu'elle est tellement encadrée par le projet dans lequel tu t'inscris, qui n'est pas ton projet, qui est le projet d'une chaîne, d'une équipe, d'une rédaction, que forcément c'est plus aseptisé, quoi. Le langage est plus aseptisé, les propositions éditoriales aussi, voilà. Tout simplement parce que, ça c'est ma conviction, ça j'en suis persuadé, une personne toute seule sur sa chaîne a infiniment plus de liberté que cette même personne d'ailleurs s'il s'engage dans un projet commun, voilà. C'est pour ça que c'est compliqué pour les médias traditionnels, d'ailleurs, d'aller sur les nouveaux écrans, parce qu'ils n'ont pas cette liberté. Ils n'ont pas cette liberté. Intéressant ce que je lis. Alors, est-ce que... Ah, Aristos estime que, justement, il y a un processus qui serait en cours sur Twitch, sur YouTube, que ça commencerait à se lisser, peut-être, je sais pas. Okay. Ah oui, il y a des... en réaction à quelqu'un qui disait la télé est aseptisée aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'exemple de TPMP. C'est pas faux. C'est Tourtemiel qui dit, c'est sûr qu'Hanouna est tellement plus aseptisé que le RTF. Alors, on est client, on n'est pas client, on n'aime pas, on consomme pas, on trouve que c'est bien, pas bien. Mais force est de constater que TPMP, pour le coup, c'est pas aseptisé. Voilà. J'ai pas dit que je regardais, ni que c'était bien, ni qu'il fallait regarder, mais pour le coup, c'est pas aseptisé, quoi. Tu sais jamais ce qui va se passer quand même, hein, dans Mission Alexia, là. Tu ne sais jamais. Alors on peut dire plein de choses de TPMP et on peut en dire des choses. Et l'ARCOM, d'ailleurs, dit régulièrement des choses et condamne régulièrement à des amendes de fou TPMP. Mais en vrai, tu ne sais jamais ce qui va se passer, quoi. Pour le coup, c'est pas aseptisé. Ouais. Ok. Bon, et si on lançait cette petite revue de presse maintenant? Hein? Oui, ah oui, t'as raison, je ferai ça un jour. Il y a le Broussier qui dit ça, mais on veut de la tier liste des jeux testés dans Simplay, je ferai ça un jour. Voilà. Pour l'instant, j'ai joué à deux. J'ai joué donc à Street Fighter 6, Super Mario, l'univers de Super Mario. J'ai joué à Smash. J'ai joué à Pokémon Emerald. J'ai joué à The Witcher 3. J'ai joué à Rocket League. Voilà. Et puis on joue donc à Mario Kart dimanche prochain. Un moment, quand je serai. Quand j'aurai atteint une quinzaine ou une vingtaine, je ferai une tier liste. Promis, promis. Allez, on y va? Petite revue de presse? Sue Crew Malachou, je crois que je t'ai pas remercié. Un grand merci pour ce soutien et ce 18e mois d'abonnement. Hop, on va parler pour commencer d'environnement, d'écologie, parce que on attend dans quelques jours eh bien, des annonces du président Macron sur la question du réchauffement climatique. C'est ce papier que je vous ai mis de côté dans le Figaro. Page 4, le chef de l'État prépare l'agenda de planification écologique, c'est ça en fait, promis durant la campagne de 2022. Je lis cet article de François-Xavier Bourmeau. Le champion de la Terre, puisqu'il il a été distingué il y a quelques années, champion de la Terre. Le champion de la Terre défend son titre, décoré par l'ONU en septembre 2018 pour avoir lancé Make Our Planet Great Again à Donald Trump après son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron tente de reprendre la main sur l'environnement. Il faut se souvenir qu'en 2018, Macron était distingué par l'ONU champion de la Terre. Ce sera le 25 septembre prochain, je vous disais dans quelques jours, hein, donc dans 6 jours, que le président va dévoiler son agenda de planification écologique, qui est en fait une promesse de campagne de la dernière élection, hein, novembre 2022. Novembre, je suis pas sûr d'ailleurs. Bon, 2022, c'est sûr. Peut-être pas novembre, j'ai une connerie. Donc 2022, la politique avait... Il dit à Marseille à l'époque que je vais mener dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas. C'est une sacrée promesse. L'économie sera écologique ou ne sera pas. Nos vies seront écologiques ou ne seront pas, avait dit le président candidat à l'époque. Les promesses, les promesses, les promesses. Parole, 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 chantait Dalida, diront certains. Bifta tout terrain, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Pour l'instant, donc, le compte n'y est pas entre les promesses, les paroles et ce qui a été annoncé. C'est pas faute d'avoir essayé tout au long de son premier quinquennat en multipliant, estime le Figaro, les gestes à l'attention des écologistes. Souvenez-vous, pour le coup, oui. L'arrêt du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, l'arrêt du projet de la Montagne d'Or en Guyane, arrêt du projet de centre commercial géant Europa City à Gonesse, tout ça c'est vrai. Hein. Convention citoyenne sur le climat, bon, pas grand-chose qui en a été retenu, hélas. Création du Conseil de défense écologique, loi anti-gaspillage. Donc, il y a eu des choses en vrai. Il y a eu des choses pendant le premier quinquennat. Pourtant, dans le costume de défenseur de l'environnement, Emmanuel Macron ne convainc pas, constate le Figaro. Parfois, il se dessert d'ailleurs lui-même, comme en 2020, lorsqu'il défend le déploiement de la 5G en France en ironisant sur ceux qui préfèrent le modèle Amish et le retour de la lampe à l'huile. Lampe à huile, comme début septembre encore, lorsqu'il rappelle que la France ne représente que 1% des émissions mondiales de CO2. Hein? Alors après tout, à quoi bon? Je vais bouger le ventilo qui est en train de me rhumer. Hein, c'est un truc qu'on lit régulièrement ici dans le chat d'ailleurs. Des gens qui disent: Ah, mais la France, qu'est-ce que ça représente en termes d'émissions de CO2? Pourquoi faire des efforts, hein? Voilà. Bon, évidemment, si tout le monde raisonne comme ça à travers la planète, c'est foutu, hein, il n'y a plus qu'à se tirer une balle. Et donc Macron, à un moment, il a eu cette phrase aussi malheureuse. Hein, c'était en C'était quand? C'était début de ce mois de septembre. Alors, quel accueil va être réservé à ces annonces dans quelques jours? Le Figaro écrit « Le même accueil est promis à l'agenda de transition écologique. Lundi, c'est avec scepticisme, donc hier, que les chefs de parti sont ressortis de leur rencontre à huis clos avec Elisabeth Borne, la première ministre. Elisabeth Borne leur présentait le contenu du plan pour identifier les dissensus, procéder aux derniers ajustements. Mardi, c'est au Conseil national de la refondation, donc aujourd'hui, que la première ministre va présenter ce plan. À Emmanuel Macron d'en tirer ensuite des conclusions pour bâtir son discours. On attend ces annonces le 25 et on va revenir avec l'humanité sur cette rencontre entre les partis et Elisabeth Borne. Mais je vous lis d'abord parce que je vois beaucoup de réactions. Ouais, c'est pas faux. Ce que Thiron nous rappelle que l'écologie, d'ailleurs, ça n'est pas que le réchauffement climatique. Et ce n'est que, ça n'en est qu'une partie. Je vous lis. 1% d'émissions de CO2 pour la France, dit Scare Hugh, mais pourquoi? Parce qu'on a notamment délocalisé l'industrie polluante à l'étranger. Je vous lis. Alors certains ne sont pas convaincus, il y a Poissman qui écrit « Facile le plan écologique, lundi rien, mardi rien, mercredi rien, jeudi rien, vendredi rien, samedi rien, dimanche rien, et puis on recommence. » Marie Marmotte n'est pas convaincue, l'écologie et Macron ça n'est que du vent, il ressort ça quand il a besoin de se faire élire et après c'est jamais une priorité pour lui. Macron c'est le Mozart de la flûte, son plan de communication c'est du greenwashing punitive, me dit Hatscorp. Pas très convaincu là. Merci beaucoup MaxiWax. C'est gentil. Merci pour le quatrième abonnement et le très gentil message qui l'accompagne. Mais oui, mais je suis d'accord. Il y a Noir95 qui dit mais 1% d'émissions de CO2 de la France, c'est énorme quand on pense qu'on est 66 millions d'habitants et qu'il y a combien de milliards d'habitants sur Terre. Oui, t'as raison en fait. Ben oui. C'est très juste. Salut Nika, merci pour le message. Voilà. Donc alors, je vous disais, hier, Elisabeth Borne a réuni les principaux partis, il y avait quasiment tout le monde, pour parler justement de ce plan de planification, cette planification écologique. Pour le climat, des objectifs élevés, ok, donc il y a de l'intention, mais sans les moyens, regrettent certains partis. À Matignon, donc hier, Elisabeth Borne a reçu la plupart des chefs de parti pour évoquer la planification écologique. La gauche est sortie de la réunion avec davantage d'éco-anxiété, alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer un plan le 25 septembre. Nimba, merci pour le soutien. Elisabeth Borne a reçu à huis clos, ça veut dire qu'il n'y avait pas de caméra, ni de micro. Lundi matin, les chefs de parti à Matignon, sauf Jordan Bardella pour le RN, qui s'est fait remplacer, et Manuel Bompard pour la France Insoumise, qui ne voulait pas, je cite, participer à une nouvelle opération de communication sans effet. Donc réunion pour évoquer le sujet qui était d'ailleurs absent des rencontres de Saint-Denis, vous savez, entre le président Macron et tous les responsables politiques français. Et d'ailleurs, c'était les écologistes qui avaient regretté, Marine Tondelier, que l'écologie avait été genre pas du tout abordée, quoi. Donc c'est une forme de rattrapage hier. D'ailleurs, rattrapage du bac, dit Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui ne donne pas la moyenne à ce sujet au gouvernement. La première ministre hier devait présenter aux responsables des partis de la majorité comme à ceux de l'opposition son plan de planification écologique, celui censé mettre la France sur les rails pour qu'elle diminue d'ici, c'est l'objectif 2030, de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90. En réalité, son contenu est déjà connu depuis juillet, nous dit l'humanité. Il s'agit de baisser les émissions d'équivalent CO2 de 36 millions de tonnes dans les transports, de 28 dans le logement, de 113 dans l'énergie, de 13 dans l'agriculture. Donc les objectifs sont affichés, mais, dit notamment Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, on ne nous dit jamais comment on va le faire. Il est écrit relocaliser l'industrie ou rénover les logements, tout le monde est d'accord, mais il n'y a pas d'objectif chiffré. Donc Fabien Roussel, il dit par exemple, moi je partage les objectifs, mais il n'y a pas les moyens. On parle d'une planification sans les moyens de la planification, d'une guerre contre le réchauffement climatique sans économie de guerre, dit encore Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Marine Tondelier, pour les écologistes dont je vous parlais, confie ne rien comprendre à ce plan. Il n'y a aucun moratoire proposé sur les projets autoroutiers, les fermes, usines, les méga-bassines, pas d'objectif de diminution du trafic aérien ou encore de la consommation de viande. In fine, Emmanuel Macron devrait reprendre la main. C'est bien le président de la République qui annoncera ce plan de communication le 25 septembre. Donc on attend les annonces et on sera là pour en parler. C'est quand le 25 septembre? Je vous dis ça tout de suite. C'est lundi prochain. Donc ce sera dans les journaux de mardi. Ok? Alors je vous lis un petit peu là-dessus. Oui, le sommaire est déjà fini, on est sur un rythme d'enfer, mais oui. Non. Alors, petite correction sur le rapport population et pollution, vous êtes plusieurs à me le dire, et en fait c'est intéressant, voilà. C'est cassette syndrome. En vrai, la France représente 0,85% de la population mondiale. Du coup, les 1% d'émissions globales, c'est pas si mal en vrai, mais il faut faire beaucoup mieux et on a encore beaucoup de chemin. Merci pour la correction, c'est juste. Guigui Franco 09, j'espère que tu vas bien, et merci pour le troisième mois de soutien. Je vous lis. Merci Gab et bienvenue. Ouais. Alors, écologie, environnement toujours, avec un joli portrait de quelqu'un dont on parle régulièrement dans l'actualité et notamment sur cette question de l'écologie, qui est Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui a travaillé au HCR longtemps, le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui est un Portugais, qui est même un ancien Premier ministre portugais, et alors qui vraiment mène aujourd'hui un combat, essentiellement par les mots, sur cette question de l'environnement. Il a eu des formules choc ces derniers mois, ces dernières années, et donc Libération éclaire un petit peu ce comportement. Antonio Guterres est un héros contre le chaos climatique. Respecté par les jeunes militants écologistes et par la communauté scientifique pour ses prises de parole mordantes sur l'urgence environnementale, le patron des Nations Unies va à nouveau mettre le sujet à l'honneur cette semaine. C'est pour ça qu'on en parle lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, Libération rappelle qu'il est patron de l'ONU depuis 2017. Il a été pendant 10 ans, enfin une décennie, à la tête du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. De formation, il est ingénieur en génie électronique. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il a une formation d'ingénieur. Il aime bien lire les rapports scientifiques, nous explique Libération. Et puis, c'est un socialiste. Hein, il a été ancien Premier ministre du Portugal. Il va donc s'adresser aujourd'hui aux dirigeants mondiaux qui se rassemblaient à New York pour la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et demain, il endossera le rôle de chef d'orchestre du sommet sur l'ambition climatique, sujet dont il fait une obsession depuis sa prise de fonction en 2017. Tout est devenu pour lui occasion à saisir pour répandre des formules sur l'avenir périlleux de la planète, le sort de l'humanité. Il y a 6 ans déjà, dans sa toute première allocution devant les Nations Unies, Guterres avait donné le ton, citation, « Nous avons dû inventer des mots pour décrire ce qui se passe. Nous parlons désormais de méga-ouragans, de méga-tempêtes, de bombes de pluie. Il est temps de réduire les émissions qui nous conduisent au suicide. » Guterres, c'est quelqu'un qui a choisi d'utiliser des mots forts pour nous alerter. Guterres, conscient des effets dramatiques du retard pris, intensifie ses discours par les tournures de plus en plus aiguisées. Il est loin le temps où l'homme encourageait encore avec une certaine bienveillance les États à s'élever tels des champions de l'action climatique, le temps où il faisait donc confiance aux États pour faire le job, convaincu que les solutions en route pouvaient nous faire gagner la course de l'urgence climatique. C'est les choses qu'il disait en 2018-2019. 2022, il y a un tournant, une année suffocante, et qui déclenche chez le secrétaire général de l'ONU une dynamique de surenchère lexicale, écrit Libé, quasi frénétique, qui fait aujourd'hui sa signature officielle. Désormais, Antonio Guterres dit que le chaos climatique avance au galop, mais que l'action climatique est au point mort, que nous sommes collectivement sur l'autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur, je crois que c'est extrêmement parlant, et que l'humanité a un choix, coopérer, hein, réussir ensemble, hein, ou périr. Face à un été 2023 hors norme, le plus chaud jamais enregistré jusqu'alors, le diplomate est même allé jusqu'à déclarer que l'ère du réchauffement climatique était terminée pour laisser place maintenant à l'ère de l'ébullition mondiale. Ça, ce sont les mots de Guterres. Alors du coup, il est assez populaire auprès des jeunes, notamment des jeunes militants écologistes ou des libérations. La génération climat ne s'y trompe pas. Depuis 2019, à l'invitation de Greta Thunberg à la tribune de l'ONU, hein, vous savez, le jour où la jeune Suédoise a prononcé son fameux discours « Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. » Eh bien, le chef des Nations Unies est vu comme un soutien un petit peu inespéré par les militants écologistes. La parole à Pablo Fly, qui est porte-parole de la Fridays for Future France, qui explique à Libération, vous voyez, dans les repas de famille, à la maison, quand on parle d'écologie, que tout le monde vous dit que vous en faites trop sur la question, mais à un moment, parfois, il y a un tonton, alors c'est pas le tonton raciste, c'est l'autre, hein, qui finit par intervenir pour dire « Mais moi, je suis d'accord, il a raison le petit, là, ou elle a raison la petite. Hein, » et ça donne tout de suite de la crédibilité à votre discours. Eh bien, Antonio Guterres, en 2019, c'est pareil, c'est le tonton, c'est pas le tonton raciste, c'est l'autre. Je rigole tout seul, pardon. Si son engagement lui attire le respect de nombreux spécialistes et militants du climat... Ah, c'est ma petite sœur qui m'appelle. Vous m'excusez ? C'est une petite famille importante. La famille, c'est essentiel, surtout quand vous avez des frères et sœurs cool. Donc, je rappellerai ma petite sœur tout à l'heure. Donc, je disais, à propos d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui est très engagé sur les questions d'environnement, si son engagement lui attire le respect de nombreux spécialistes et militants du climat, le sociodémocrate portugais n'est toutefois pas épargné par les critiques, un petit peu comme d'habitude. Sa surenchère rhétorique, c'est l'expression de son impuissance. Guterres est l'arbitre d'un match de football qui se lamente que les équipes soient si mauvaises et qui voudraient jouer à leur place, mais qui ne le peut pas. C'est un politologue, François Gémen, qui est membre du GIEC, qui le dit. D'autres lui reprochent de surinvestir le dossier climatique pour masquer la crise du multilatéralisme en général, puisque c'est un petit peu le job de l'ONU quand même, et du système onusien en particulier, entre paralysie du Conseil de sécurité, retard dans les objectifs de développement et difficultés accrues des opérations de maintien de la paix, notamment au Mali et en République démocratique du Congo. L'ONU constitue un excellent cadre de discussion, mais la plupart des décisions échappent à son contrôle, note Thomas Friang, une sorte de ministère mondial de la parole, Assurément utile, mais pas forcément suffisant. Intéressant ce papier. À vous maintenant. Sangokip, merci pour le soutien, merci pour le prime. Merci à toi. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Guterres? Shinigami, oui, je lundi et ce matin, j'ai pas posté mes petites revues de presse express sur, sur TikTok, sur Insta, tout ça. Parce qu'en fait, j'étais un peu pris. Notamment parce que j'enchaîne derrière mes streams. Mais ça reprend, ça va reprendre vite. Pas demain, demain je stream pas du tout demain. Puisque je pars à 7h, je prends la route. Direction un circuit automobile avec les amis de Villebrequin et de Top Gear. Donc il n'y aura pas de stream demain matin. Est-ce que je peux en caler un demain soir? Je vous tiens au courant. Participation d'AEG Elchino à notre débat et qui dit pour reprendre les propos d'Aurélien Barraud pour que le combat écologique avance, parce qu'à un moment on va pas rester dans l'éco-anxiété, hein, c'est pas possible, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Pour que le combat écologique avance, il faut des lois qui contraignent toutes les entreprises, tous les citoyens, quel que soit leur statut dans la société. L'homme en tant qu'espèce a tendance à ne pas accepter de devoir faire quelque chose si les autres ne sont pas contraints de le faire aussi, c'est vrai. Il faut que ce soit une affaire globale et je pense que ça passe aussi par l'éducation des jeunes générations. Merci pour cette contribution. Grand Lolo, on va tous mourir. Non, non, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver. On va déjà essayer de limiter la casse. Bon, c'était en juin, sur la dernière émission de l'Hebdo Étienne de l'année, j'ai reçu notamment deux jeunes femmes, l'une journaliste et l'autre activiste, sur ces questions. Et elles m'ont dit beaucoup de choses intéressantes, notamment que chaque geste comptait, chaque 0,1 degré de réchauffement empêché importait et allait limiter en fait les conséquences des changements climatiques, du réchauffement climatique, notamment quoi. Donc chaque geste compte parce que, voilà, et c'est, moi je pense que ça doit être notre philosophie aujourd'hui. Merci Vlachande pour le 6e mois d'abonnement. Alors certains, moi je lis tout dans le chat, y compris les commentaires qui me mettent devant mes contradictions. Je viens quand même de parler des changements climatiques et de l'impérieuse nécessité ensemble d'agir au quotidien là-dessus. Et dans la foulée, j'annonce que je vais faire des tours de circuit vroom vroom en voiture avec les amis de Villebrequin. C'est vrai. Eh oui, c'est complètement con. Eh oui. Oui, et oui, et nous sommes ça, et nous sommes que plein de contradictions. Et oui, j'y avais pas pensé en fait. C'est complètement con. Oui. Alors bon, oui. Ah, évidemment, je pourrais dire ah oui, mais c'est un tour de circuit, c'est pas ça qui va changer. Mais non, mais si. Ah, mais vous avez raison. Vous avez raison. Il y a pas de pirouette. C'est con. Bah si, c'est con. Il y a Red Dead qui t'inquiète, c'était pour te charrier, nous sommes tous plein de contradictions. Ouais, mais non, mais si, mais vous avez raison. Vous avez raison. N'y va pas ? Ouais, bah non. Non. Alors pour le coup, c'est pas non. Non, parce que je me suis engagé auprès des équipes. Donc, jour pour le lendemain, ça veut dire mettre une émission en péril et des gens que j'aime bien. Mais ouais, c'est con. Ouais, j'avoue, j'assume.
Merde.
Alors, vous me donnez d'autres exemples. MGCTF parle de Sébastien Vettel, quadruple champion du monde de F1, qui a une parole engagée sur l'environnement, mais qui continue de rouler sur des exhibitions. Alors, comme dit Montautrice, c'est con, mais ça va être drôle. Ah ben, alors si, là où quelque part, il y a un geste sur l'environnement qui va être fait par le pilote, donc Papy Sam, c'est que, la, bon, ils ne le savent pas encore, il ne faut pas trop leur dire, la voiture, parce que je crois qu'on va faire du pilotage, quoi. La voiture, et ça ils ne le savent pas encore, elle va être dans le fossé au premier virage. Parce que j'ai un rapport assez particulier à la conduite. Donc, en fait, en termes d'émissions de CO2, ça va être très court, quoi. Première, deuxième, troisième virage faussé, quoi. Donc, voilà, et la voiture sera inutilisable. Donc, en fait, quelque part, alors je n'avais pas pensé, que c'était un peu contradictoire d'aller faire du vroom-vroom demain, mais quelque part, je vais œuvrer pour l'écologie, puisque je vais quand même planter la voiture au premier virage. En évitant les arbres, bien sûr. Bon. Voilà, ce que résume Rampousse très joliment d'ailleurs. Planter des voitures, pas des arbres. C'est beau. C'est très beau, c'est très beau. En tout cas, sujet essentiel. Alors, sujet essentiel ou pas, je suis pas sûr en fait, mais je voulais vous en parler quand même parce que c'était la une du Parisien. Et je me dis, si le Parisien a mis ça en une, c'est que c'est important, ou au moins intéressant. Alors, important, je sais pas. Intéressant, oui. Les coulisses d'une visite royale, c'est la une du Parisien ce matin avec Charles III qui vient en France. C'est quand c'est demain, ça commence demain. Avec Camilla, donc son épouse. Le roi Charles III, qui est donc le nouveau roi britannique, effectue sa première visite d'État en France, c'est pour ça qu'on en parle, à partir de mercredi, le signe d'un réchauffement des relations entre Paris et Londres, qui sont un petit peu tendues depuis le Brexit. Il y a David qui voudrait que je parle de la table ronde de tout à l'heure Radio France. On en parle à 10h30. À 10h30, on en parle tous ensemble parce que j'ai besoin de vos lumières sur ce sujet. Le sujet de la table ronde étant, est-ce que le sport est le nouveau terrain de jeu des streamers ? Non, c'est pas le roi et sa maîtresse, Dark Colin, c'est son épouse maintenant. S'il te plaît, Charles III est donc attendu en majesté. Emmanuel Macron et son épouse recevront à partir de demain le roi d'Angleterre et la reine Camilla. 3 jours d'une visite préparée avec soin par l'Élysée. Donc ça commence mercredi après-midi. Macron ne veut pas rater son effet quand il descendra vers 15h30 les Champs-Élysées, accompagné du roi Charles III. Installés dans une Citroën DS7 découvrable, ils vont quitter l'Arc de Triomphe. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une tribune avec des sièges, des petits fauteuils sur le rond-point des champs, de l'étoile depuis quelques jours. Maintenant, je sais. Donc, ils vont quitter l'Arc de Triomphe pour rejoindre le palais présidentiel, 1,5 km plus bas, en bas des champs, quoi, et hop, à gauche. Autour d'eux, 136 chevaux de la garde républicaine en tenue d'apparat, les mêmes qu'au défilé du 14 juillet. Bon, là, en termes de CO2, hein, les chevaux, ça va à peu près. Dans le ciel, le passage de la patrouille de France et des Red Arrows, qui est l'équivalent chez les Britanniques, les flèches rouges de la Royal Air Force, grandiose. Bon, voilà pour l'image, pour la carte postale. Cette carte postale, voilà presque 6 mois en fait que le chef de l'État français l'attend. Il garde encore en travers de la gorge ces jours de fin mars quand, après des nuits de violence consécutives au passage en force sur la réforme des retraites, 49-3, le souverain britannique avait donc décidé de reporter sa visite d'État qui devait être sa première visite à l'étranger depuis qu'il était devenu roi, depuis le décès de sa mère, la reine Elisabeth II. Et finalement, c'est l'Allemagne qui avait accueilli le premier déplacement à l'étranger de Charles III. Qu'à cela nous tienne, c'est en majesté, donc vous l'avez compris, c'est particulier parce qu'on est une république, mais une république avec une histoire monarchique aussi et un château de Versailles. Donc c'est en majesté que la France s'apprête à accueillir à partir de demain le roi Charles III avec la reine Camilla. Le programme est dense, 3 jours où Charles III a prévu de se rendre entre autres à Notre-Dame pour suivre l'avancée des travaux de restauration. Vendredi, il ira à Bordeaux, parce que j'apprends qu'il y a une communauté britannique importante à Bordeaux. Vous le saviez, ça? Alors ça, moi, j'apprends un truc. Vous saviez qu'il y avait beaucoup d'anglais à Bordeaux? Je ne vais pas savoir. Il y a les gens de Bordeaux là ? Évidemment, ok. Banana be good. Non mais je m'en fous. Il y a Thilo aussi. Oui, en Bretagne, oui. À Bordeaux. Ouais, ok. Oui, à cause du vin et de l'immobilier. Proche, me dit Agathe. Joli pseudo. I got my mindset new. Dans le sud-ouest en général, d'accord. Donc tout le monde le savait sauf moi. Ok, il y a beaucoup d'anglais dans le sud-ouest. Grosse communauté dans tout le sud-ouest. Ok, bon. Comme d'habitude, on ne me dit rien. Lucien Ducasse, qui est bordelais, confirme et nous envoie un 16e mois d'abonnement. Merci à toi. Ok. Bon, moi, je savais. Je ne savais pas ça. Donc, déplacement à Bordeaux. Mais le sommet, les amis, de la visite sans conteste est prévu le soir même. Donc, c'est mercredi, demain soir. Mercredi, sous les ors de Versailles. Pour un dîner d'État exceptionnel à la Galerie des Glaces, où plus de 150 invités sont attendus. Agathe, bienvenue. C'est le summum en termes de réception officielle offerte par la République. C'est le top du top. Rares sont les chefs d'État étrangers à avoir eu ce privilège, comme monte le palais. Voilà. Alors donc là, j'ai un petit truc à vous annoncer. Parce que vous savez que le président Macron fait, avec plus ou moins d'habileté, régulièrement des appels du pied au monde du stream et... Il y a du gaming, c'est une petite polémique récente là. Eh bien, je peux vous annoncer, petit leak, que parmi les 150 invités autour de Charles III, du président Macron et de leurs épouses respectives à la Galerie des Glaces du Château de Versailles, eh bien, je ne suis pas invité. Eh oui, c'est incroyable, hein. Très fier de moi. Le Twitch de Pete, merci pour le 6e mois d'abonnement. Dommage, j'aurais fait un petit stream en loose day, j'aurais posé mon iPhone sur la table. J'aurais lu le chat, et j'aurais dit ouais, non. Alors que, là, on attend l'entrée, là. Je vous montre. Ouais. Je vous ai montré coulisses et tout. Voilà. Donc, pas invité. Alors donc c'est le must du must. Dans le passé, qui a eu le droit aux honneurs de la Galerie des Glaces comme ça pour ce dîner de fou? Bah justement la reine Elisabeth, à peine installée sur le trône britannique en 57, les Kennedy aussi, voilà. Alors évidemment ça pose des questions quand même. Déjà comme au printemps dernier, le choix de ce banquet dans la pièce construite pour être le symbole de la toute puissance du roi soleil fait débat. Procès en monarchisme pour Emmanuel Macron avec ce faste célébré dans une France qui est à la peine sur le pouvoir d'achat. Il y a des gens qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui en France, donc bon, c'est une image qui peut détonner. Mais ce choix de Versailles, dit-on à l'Élysée, répond avant tout à un souhait de Charles III, sensible à l'idée de marcher dans les pas de sa mère, puisque elle a eu droit à cet honneur il y a quelques décennies. C'est ce que raconte l'Élysée, à une volonté de faire rayonner la France aussi avec l'endroit le plus connu en dehors de nos frontières. Les convives. Donc des membres du gouvernement, il y a des ministres, des grands patrons issus des deux rives de la Manche, des personnalités des arts et des spectacles. La soirée va débuter par un interlude musical d'une vingtaine de minutes à la Chapelle Royale, conduite par le violoniste suédois Daniel Luzakovic. Petit moment un petit peu chicos comme ça. Puis le couple présidentiel, le roi et la reine, recevront le reste des invités pour un dîner XXL, une table de 62 mètres de long, au fourneau, les meilleurs chefs, et voilà, on en vient enfin à l'essentiel, j'ai le menu. Voilà. L'entrée a été validée en début de semaine, c'est du homard bleu, homard bleu, souvent c'est un homard breton, et de tourteau de casier, servi avec un voile d'amande fraîche et de la menthe coque. Putain, l'entrée, en vrai, l'entrée, là, elle a l'air dingos, quoi. Bon. Le plat sera une volaille de Bresse, voilà, au parfum de maïs, avec un gratin de cèpe. Oh, putain, en vrai, ça a l'air trop bon. Bon, le fromage, folie. Le fromager de la maison Anthony servira pour sa part sur assiette un comté de 30 mois, une bûche de chèvre et un Stichelton, je sais pas si je prononce bien, qui est un fromage bleu anglais. Voilà. Accompagné d'une gelée à base de Mirabelle. Ah, il y a plusieurs, notamment Mademoiselle Serena, qui disent « Mais il n'est pas végétarien, Charles ?» Bah écoute. Bah sur l'entrée, il mangera le voile d'amande, hein, il laissera le homard. Sur le plat, il laissera la volaille et puis il mangera le gratin de cèpe. Hein. Et puis le fromage, ça dépend si, s'il prend pas de produits qui viennent de l'animal. Et puis sinon, il y a le dessert. Alors le dessert, moi je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu sur le dessert parce que, bon, il y a des grands, grands chefs, je ne vous les ai pas cités, mais il y a Anne-Sophie Pic qui fait l'entrée en fait. Et puis il y a Yannick Aleno pour le plat principal. Le dessert. C'est un grand pâtissier que tout le monde connaît, qui a plein de boutiques, voilà. Et en fait, qui va servir son dessert qu'il fait genre depuis 30 ans, voilà. Qui est le biscuit Ispahan à base de macarons roses assorti d'un sorbet de litchi. Ou alors là, pardon, ça c'est un truc... Enfin, ça existe depuis toujours. C'est pas... Je trouve pas ça très original. Bon. Non, c'est pas Cyril Lignac. Mais comme j'en dis pas du bien, je dis pas qui c'est. Ouais, fait et refait, exactement. GG, gros paquet, me dit fait et refait. Oui. Par contre, l'entrée et le plat principal, la teuf. Non, c'est pas la durée non plus. Il y a Ribon TV qui dit ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas du canard, c'est de la volaille de Brasse. Excellent. Voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé le pâtissier. Non, si vous connaissez votre pâtisserie et les classiques de la pâtisserie, si je vous dis Ispahan à base de macarons roses, litchi, il y a un seul pâtissier qui fait ça. Voilà, et certains ont trouvé. Voilà. Je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que c'est vraiment pas très. Enfin, c'est un vieux truc. Ouais, c'est un vieux truc. Voilà. Bon, sur la visite. Sur la visite du roi Charles III en France, vous en pensez quoi? Je savais que la bouffe allait vous faire réagir. C'est tellement, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai que l'image peut, voilà, va peut-être choquer certains. Voilà, les ors de la République, le château de Versailles, voilà, avec toutes ces personnes importantes et ce menu de fou, alors que on est avec une population qui vit au quotidien la hausse des prix sur l'énergie, sur le carburant, sur l'alimentation. Hein? On en parlera, on verra s'il y a des petites surprises. Manger de la brioche, exactement, je laisse le mot de la fin, don't voir. Ce papier du Parisien, c'est aussi l'occasion de se pencher sur un petit bilan. Ouais, le bilan d'un an de règne de Charles III. Parce que, eh ben oui, c'est une question quand même, quel type de roi est-il Charles III? Bien sûr, c'est un roi qui fait pas de vagues, alors que certains pensaient que, comme il avait des aspects un petit peu foufou sur deux, trois trucs, eh bien peut-être que ça allait être un peu rock'n'roll, pas du tout. C'est très calme, une première année de règne sans vague, nous dit le Parisien, réputé maladroit et sans charisme. Charles III, 74 ans, a su éviter les pièges depuis son accession au trône, reste encore à convaincre les Britanniques de l'utilité de la couronne pour l'avenir, parce qu'il y a quand même de plus en plus de voix qui s'élèvent en Grande-Bretagne, même si globalement il n'y a pas une contestation majoritaire du fait monarchique en Grande-Bretagne, il y a quand même de plus en plus de Britanniques, notamment chez les plus jeunes, qui disent ouais, pff, on s'en fout en vrai. Comment faire oublier le procès en incompétence qui lui a longtemps collé à la peau, imprimé noir et blanc sur les colonnes des tabloïds de Charles, qu'on appelait Charles l'excentrique, le personnage hors sol, le maladroit, l'illuminé, le sans charisme, quelqu'un dit le charisme d'une huître, Arnarax est méchant, illuminé, qui n'inspire pas le respect même à sa propre famille, la princesse Diana avait osé douter publiquement de la capacité de son futur ex-mari à régner, ce qui n'est pas très gentil non plus. Mais une année après son accession, eh bien vous avez quand même 59% de la population britannique qui considère que le roi fait un bon travail. Good job, hein, GG. Il n'y a pas eu de faux pas, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Alors, où est passé le grand réformateur, le visionnaire qui fourmillait d'idées? Parce que c'est vrai que, notamment sur les questions environnementales, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui pouvait... surprendre par ses prises de position. Certains s'attendaient à un véritable coup de balai, mais en fait la monarchie a suivi son cours tel qu'elle était sous le règne d'Elisabeth II. L'historien Anthony Seldon rappelle que Charles a toujours justement fait la différence entre le rôle de prince de Galles et celui de souverain. Il apparaît aujourd'hui comme bien plus diplomate qu'on l'imaginait, quelqu'un qui sait arrondir les angles. Mais contrairement à sa maman, le nouveau monarque va devoir convaincre ses sujets de son utilité. Il y a 10 ans, les sondages sont intéressants quand même là, 72% des 18-24 ans croyaient en l'institution monarchique, donc 72% des jeunes croyaient en l'institution monarchique, un chiffre aujourd'hui réduit de moitié, donc il y a beaucoup moins de respect des jeunes aujourd'hui, tout fout le camp vis-à-vis de l'institution. Un fossé générationnel donc qui s'est installé pour James, qui est agriculteur. La reine était une dame âgée qui appartenait à une autre époque. Charles est un chef d'entreprise, il doit à tout prix réformer. Le travail a déjà commencé, puisqu'après avoir réduit le cercle des membres actifs de la famille royale, coucou Harry, Charles et Camilla visent désormais le personnel des palais, véritable mammouth, où de nombreux emplois doublonnent sans raison, nous dit le journal. Charles III a ainsi mutualisé son service de presse avec celui de ses frères et sœurs. Après cette année de deuil et de couronnement, la famille royale a replongé dans sa torpeur habituelle au risque de susciter l'indifférence. L'ennui est probablement un bon point de nos jours, tempère James, avec la classe politique qu'on a eue ces dernières années. Touché par une grave crise économique, le Royaume-Uni de l'après-Brexit traverse une crise existentielle. Charles ne crée pas de vagues, en vrai, c'est tout ce qu'on lui demande, disent certains. Voilà. Voilà. Alors moi, je suis content parce que je n'avais pas eu ce petit papier bilan d'une année de règne de Charles III. Bon, ça a l'air de correctement se passer, quoi. Donc, vous pensez quoi ? L'homme à tête de chou, me dit Arnarak. Oui et non. L'homme à tête... Oui, un petit peu. C'est tout Serge Gainsbourg, dont on va parler tout à l'heure, qui était l'homme à tête de chou. Je pense que tu le dis exprès, d'ailleurs. C'est vrai, quand je parlais d'écologie, Charles III était un précurseur pour l'agriculture bio, décrié quand il l'a introduit. Il est maintenant vu en précurseur. Chouba, c'est vrai. Alors, vous êtes plusieurs à dire, mais c'est quoi son travail ? Roi, c'est pas un travail, roi. Si, et certains disent aussi, oui, mais en fait, son travail, c'est pas faire de bourde. Le roi n'a pas de rôle politique propre, reconnu. Chaque année, il lit à la Chambre des communes, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, un discours de politique générale en fait, qui est écrit mot pour mot par le Premier ministre qui est en place, voilà. Et le roi ou la reine ne fait que lire en fait ce discours dont il n'a pas écrit un seul mot, voilà. Pas de pouvoir politique, mais un pouvoir d'influence, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'Elisabeth II et d'autres souverains ont, par leur relation avec le gouvernement, le Premier ministre, en faisant passer des messages, un pouvoir d'influence malgré tout, à la marge sur les affaires du royaume. Et puis il est, ou elle est, ou il est, le roi, la reine, symbole d'une forme d'unité nationale au-dessus justement des contingences politiques. Par exemple, Elisabeth II ne prenait jamais la parole publiquement sur des questions politiques, n'a jamais à laisser entendre, mais n'a jamais vraiment dit ce qu'elle pensait du Brexit, par exemple, voilà. Et donc est un symbole d'unité, voilà, justement en se taisant, voilà, ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est assez intéressant. Donc si. Ah, ça fait cher, oui, ça fait cher le perroquet, comme dit Dugommier, mais voilà. En tout cas, les partisans de la monarchie britannique estiment que oui, il a un rôle quand même. Ouais, comme le dit très joliment Tonton Buzz, il sert de symbole, c'est comme un monument, mais c'est en plus cher. C'est très bien résumé. Voilà. C'est pas mal.
mal. Alors, j'ai besoin d'un petit café là, 1h31, c'est un peu tôt non pour vous abandonner? Oui, si quand même. Je vais lancer un café, ça va être très rapide. Après, je vous parle de la maison, de l'hôtel particulier musée à la mémoire de Serge Gainsbourg, ça y est, qui ouvre ses portes. Une très belle interview de Charlotte Gainsbourg, sa fille dans Libération. On va comprendre le pourquoi du comment de ce projet. Un portrait d'Alison Wheeler, l'humoriste qui quitte l'émission Quotidien pour se lancer dans une tournée de son spectacle. Elle vient dans pas longtemps dans l'Hebdo Étienne. Donc, petit portrait. Le Figaro... salue l'incroyable succès au fil des années de GTA V, une décennie d'un succès hors norme pour l'industrie du jeu vidéo. C'est un papier qui m'a bien mis à bien updater moi sur ce jeu que je connaissais mal, auquel il faudra que je joue un jour. Elle sera dans l'Hebdo Étienne, pas vendredi là, mais le vendredi d'après. Et puis un dernier papier sur les médias audiovisuels, la télé notamment, qui court après le jeune public. Je vais me faire un petit café et sachez qu'après tout ça, on gardera un petit quart d'heure, 20 minutes pour parler du sport sur Twitch, puisque c'est le thème de la table ronde que j'anime tout à l'heure à Radio France à partir de 11h30, 11h45. Le sport est-il le nouveau terrain de jeu des streamers? Je reçois à Radio France, c'est pas streamé hélas, il faut être en présentiel, il faut être sur place, l'inscription est gratuite, peut-être que si vous êtes dans la région, vous avez encore le temps. Je recevrai PA, donc Domingo, je recevrai Zach Nani, et je recevrai Hugo Décrypte pour répondre à cette question. Donc j'ai besoin de vous pour préparer cette émission, parce qu'évidemment, je n'ai rien fait, comme d'hab. Je vous mets une petite musique, je vous mets... ça peut-être? Non, pas ça. Ça. Ouais, ça, ok. Je vous dis, Adam, ouais, le casting. Non, c'est même pas à la radio. C'est même pas à la radio. C'est dommage d'ailleurs. C'est vraiment des tables rondes présentielles à l'ancienne, quoi. Donc, c'est pas à la radio, c'est pas sur internet. Il faut être sur place. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire. Je pense qu'il reste peut-être des places. Si vous allez sur le tweet que j'ai posté hier là-dessus. Vous avez sous mon tweet, vous avez le site pour éventuellement vous inscrire. Ouais, c'est dommage, hein. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que ça aurait été super intéressant. A tout de suite, dans 2 minutes, avec un petit café. C'est pour moi qui décide. Je ne suis qu'un exécutant, je ne suis qu'un artisan. A tout de suite, caféinez-vous, les zouzous là. Bande de belles personnes. Turns. See.
Ok, Like an Idiot, ce sera la petite musique du raid tout à l'heure. Sympa ça. Allez, c'est reparti. On est sur les chapeaux de roue, on est sur un rythme totalement insensé. Ce matin, ça va tellement vite, mais c'est incroyable. Oui, parce que je vous abandonne à 11h, même avant 11h. Ouais, je sais, désolé. Il y a Chiki Latrick, magnifique pseudo, qui dit mais bonjour Samuel, la table ronde tout à l'heure à Radio France sur le sport sur Twitch. Et sur quelle chaîne Twitch? C'est pas sur Twitch. Je sais, ça n'a pas de sens. Je leur ai demandé, quand ils m'ont proposé Radio France, c'est où donc, c'est diffusé sur quelle chaîne, ce débat sur Twitch? Sur la chaîne de PA, sur la chaîne de Zach, sur la chaîne d'Hugo Décrypte, sur votre chaîne à vous? Ils ont une chaîne. Sur la mienne, hein, sinon j'avais une caméra, on fait ça avec Joe et tout. Et donc, ben non, sois pas désolé, Chiki. C'est juste que ça n'a pas de sens. Et on m'a dit, écoute, je sais pas, je reviens vers toi. En fait, non. En fait, c'est pas streamé. Ils vont passer des extraits sur les réseaux sociaux, je crois. Ouais. Mais ça n'a. Oui, je sais. Ça n'a pas trop de sens. Ouais. Que vous dire. Ouais. On invite des streamers et pas de captation, dit Nico Manga. Bah ouais, je sais, ouais. Je sais. Comme le dit Hazard, c'est complètement k. Je sais pas ce que tu veux dire. Carabistouillé, une table ronde sur Twitch sans être en stream, aucune compréhension de la plateforme. C'est un peu. Surtout que France Info, la radio, ils s'intéressent vachement. Et Radio France, d'une façon générale, à Twitch, je comprends pas trop. Ouais. Non, c'est même pas. En fait, ce sont des tables rondes de réflexion, d'échange avec les gens sur place, et même pas diffusé sur la radio. Ouais. Colmette dit, est-ce que c'est impossible de faire une double diffusion, genre stream à côté? Non, ça n'est même pas diffusé à la radio, en fait. C'est juste pour les gens en présentiel, quoi, à l'ancienne, quoi. Et vous, hein? Clément, PCDX10, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Boon, merci pour le Prime, c'est adorable. Ouais. En fait, c'est une réunion, voilà. Ouais. Ben ouais. Tenez, je vous montre. C'est dommage. Back to 1992, dit Defecator. Ouais, c'est ça. Tchouk. Le sport! Nouveau terrain de jeu des streamers. Voilà. C'est au Studio 104. C'est en studio. Alors, c'est à la radio quand même. Attends. On va essayer de voir. Parce que les documents qu'on m'a envoyés, podcast peut-être. Ah, peut-être podcast. Oui, parce que je vois qu'il y a des replays 2022. Parce que c'est la deuxième édition, je crois. Attends, on va voir. Oh, regarde, le beau Domingo, il est là, regarde. Oh, regarde, il a la plus grosse photo. Des speakers passionnants. Et c'est, il a la plus grosse photo. Salut, Kilibrose, merci pour le gentil message. Alors, où est-ce que... Programme, information pratique. Où se déroule l'événement? Maison de la radio, ça, ok. 4 lieux d'exception, le Studio 104, qui est un studio mythique, ok. Vous voyez, le foyer F, foyer B, ça sent pas trop la radio, ça, hein. Ok. Ah, ils mettent même pas où c'est diffusé, quoi. Ah ouais, non, mais c'est magnifique le Studio 104. Putain, je suis fier. Ah ouais, c'est mieux. Les autres, ils sont un peu dans à la cantine, quoi. C'est classe. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est demain le sport ? À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, demain le sport se veut un lieu de rencontre présentiel. Unique entre les acteurs du monde sportif français et international et le grand public, c'est-à-dire que les gens peuvent venir sur place. Une journée riche en réflexion et échange sur le sport de demain, sous toutes ses facettes. Cette journée gratuite, hein, pour les gens qui veulent venir, s'adresse à tous ceux pour qui le sport occupe une place centrale, aussi bien dans leur métier, leurs études, simplement dans leur vie quotidienne, professionnelle, élus, étudiants, associations, pratiquants, passionnés de sport. Demain le sport a l'ambition de réunir tous ceux qui font et refont le sport en France. Alors, il y a des replays, il y a les replays 2022. Donc, en fait, il y a des captations, en fait. Hein. C'est des captations. Et donc, c'est mis sur Internet après. Ah, ce sera... Par exemple,
Tiens, on va en prendre. On va en choisir une. Demain, l'e-sport. On va aller voir à quoi ça ressemblait. Oula, ça clique, mais ça marche pas. Oula. Oula. Ah.
Évidemment. Et puis voilà, certains médias prennent ça très au sérieux et ont pris le train en marche et parlent depuis plusieurs années maintenant d'e-sport. Et donc nous, on est très contents.
Ouais, c'est cool en vrai.
C'est Tac qui nous rejoindra tout à l'heure, Tac de son pseudo, Léo. On lui a dit tout à l'heure, est-ce que tu accepterais de venir? Il a dit oui. Et
donc... Tu pourras faire des compétitions okay. En ligne.
Oh, alors on est obligé d'être physique. Laure Vallée.
Alors c'est vrai que c'est...
Ok, on peut... donc il y a une captation vidéo, son, voilà, et ce sera accessible peut-être sur YouTube notamment. Ok. Bon, cool. Donc ce sera, voilà, donc c'est pas visible en direct. Ça ne s'écoute pas à la radio, ça ne se regarde pas sur Twitch, mais ce sera accessible après, quoi. Voilà. En vrai, et même le site est plutôt bien fait. Ça, c'est pour les replays 2022. Et regardez, si vous êtes dans le coin, je crois qu'on peut encore... c'est gratuit, hein. On peut encore... Tiens, on va essayer de s'inscrire en direct, là. Hop. Pour 10h ce matin. Ajouter au panier. Hein, acheter maintenant pour 0€ mardi 19 septembre 10h. Donc c'est hop. Ça m'a, vous voyez, manifestement on peut accéder quoi. Bon, voilà. Bon, on est un peu rassuré, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai besoin de vos lumières sur le sujet, mais manifestement ce sera accessible sur YouTube. Ce qui me fait flipper d'ailleurs parce que je n'ai rien préparé. Je n'ai absolument rien préparé et donc je viens de me rendre compte que ma prestation allait être enregistrée. Ok, super. Alors moi j'interviens plus tard, hein. Ma table ronde est à 11h45, 11h50, parce qu'il y a plein de tables rondes, il y a une trentaine de tables rondes je crois. Et donc je pars, mon taxi est à 11h, j'arrive à 11h30 là-bas. Voilà. J'y vais au talent, me dit 77 Tsubasa, ouais c'est ça, ouais. Je pense que ça va être une catastrophe en fait, ça va être une catastrophe, j'aurais dû bosser. J'ai bossé un peu hier après-midi, hier soir. Je compte sur vous en fait. Hein. Dans trois quarts d'heure, on se penche là-dessus. Hein? Kilibros, merci pour le Prime. Et on y va. Hommage à Serge Gainsbourg. Voilà. J'étais un peu intrigué par cette une, quand même. Vous avez plusieurs pages consacrées à l'ouverture de cette maison hommage, maison musée à la mémoire de Serge Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg s'invite à Libé. Donc c'est une interview exclusive de la fille de Serge Gainsbourg qui est derrière en fait à l'origine de ce projet. À l'occasion de l'ouverture de la maison de son père, la chanteuse et actrice se livre dans un entretien intime et commente ses photos personnelles. À l'occasion de l'inauguration de la maison Gainsbourg à Paris, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'actrice et chanteuse évoque le chemin qu'elle a dû parcourir pour ouvrir ce lieu. Je crois que Serge Gainsbourg est mort il y a plus de 30 ans, hein, c'est ça ? Porté par une nécessité intime, un espace qu'elle a conçu au plus proche de sa mémoire, fidèle à l'exigence de la figure paternelle. Alors, l'intérêt de ce dossier, c'est une longue interview de Charlotte Gainsbourg qui est venue à Libération commenter des photos qu'elle a prises elle-même dans cette maison-musée, hommage à son père, et elle a des mots qui sont touchants et elle explique pourquoi, surtout, ça a pris autant de temps. Let's go. Dès mercredi, donc dès demain, les grilles vont s'ouvrir, la demeure devient enfin accessible au public. Donc la demeure et un musée en face, au 14 rue de Verneuil, qui retrace toute la vie de l'auteur, compositeur, cinéaste, chanteur. Doit-on s'inscrire sur le site de la maison Gainsbourg pour venir? Oui, il faut s'inscrire sur un site, voilà. Et patienter un petit peu parce que les ventes ont explosé dès que ça a été ouvert au public. Et il n'y a pour l'heure plus de créneaux disponibles avant plusieurs mois. Il y a des gens qui ne sont pas trop hype par Gainsbourg dans le chat. J'ai vu il y a des gens qui n'étaient pas très séduits. Bon, de toute façon, il n'y a pas de place. Qu'éprouvez-vous, question de Libération à Charlotte Gainsbourg, aujourd'hui, alors que la maison et le musée vont ouvrir? C'est comme si je m'étais tu pendant 32 ans et que d'un coup, je pouvais parler de la personne que j'aime plus que tout. Avant, il y avait tellement de peine, c'était tellement douloureux que même à mes enfants, je ne pouvais pas parler de mon père. Pendant 30 ans, dit-elle, je suis entré dans cette maison en pensant qu'il allait revenir. Il y a son odeur. Tout est très rassurant, comme si j'étais dans les années 80. À quelles occasions alliez-vous dans cette maison ? Lui demande de Libération. J'y allais à l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon père, au lieu d'aller au cimetière. Sur sa tombe, il y avait toujours beaucoup de monde et il suffisait qu'une seule personne y soit pour que je ne me sente pas à ma place. Et puis il y a Yvan Attal, son compagnon, hein, qui m'a, le comédien, qui m'a animé en me disant « Mais tu te rends compte de la charge que tu laisses à tes enfants ? Ils n'ont pas connu leur grand-père. Si tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit de cette maison, ça va être à eux de s'en occuper. Ils ne sauront pas par où commencer. » Et je n'avais pas envie, dit Charlotte Gainsbourg, de laisser ce poids à mes enfants. De toute manière, il fallait agir, car en mon absence, et ça c'est fou, je ne le savais pas, on m'envoyait des photos qui prouvaient que la maison était visitée, que des soirées y étaient organisées à mon insu. C'est incroyable. Hein. Des tas d'objets ont disparu. C'est un peu triste ça. Ça, je savais pas. Alors, certains ironisent en disant « Oui, odeur de cigarette, sans doute, ouais, bien sûr, énorme fumeur. Et peut-être histoire, petite odeur d'alcool, peut-être. » Il ne cachait pas qu'il était effectivement habité par certains démons, Serge Gainsbourg. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir dans cette maison ? Puis après, je vais vous lire sur cet article, puis sur le personnage aussi, parce que je vois quelques réactions à propos de Serge Gainsbourg. « Maison Gainsbourg, belle vue de l'intérieur. La maison de la rue de Verneuil, où vécut le chanteur jusqu'à sa mort, sera ouverte au public mercredi. Donc c'est demain, objets, sculptures, livres, curiosités, ils sont exposés, permettant une plongée dans l'univers foisonnant et méticulé de l'artiste. Manifestement, c'est attendu, puisque vous avez plusieurs mois d'attente, de liste d'attente pour pouvoir visiter la maison. Donc si vous êtes fan et que vous n'êtes pas inscrit, bah, ça va vous prendre un petit peu de temps. J'apprends que la première que ça commence en 1967 avec Brigitte Bardot, manifestement Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, qui étaient en couple à l'époque, se cherchent un petit nid d'amour et eh bien jettent leur dévolu sur cette maison, cet hôtel particulier, qui est plus une maison qu'un hôtel particulier d'ailleurs, de 130 mètres carrés pour être tout à fait précis. Sauf que Brigitte Bardot ne va pas vraiment vivre avec Serge Gainsbourg. Elle va le quitter, consolée par Jane Birkin. Gainsbourg s'improvisera maître d'œuvre et architecte obsessionnel, avec de longs travaux qui vont durer pendant 2 ans. Maison de ville abusivement qualifiée d'hôtel particulier, 130 mètres carrés sur 2 niveaux, au plafond bas, la circulation étroite, emmaillotée de noir, la décoration était très sombre. Le lieu va se métamorphoser au fil des 22 années d'occupation, d'accumulation baroque. Maison de famille du temps de Jane, Kate et Charlotte, vivante mais réglée à la baguette comme une partition de Chopin par un Gainsbourg qui était maniaque de l'ordre. La maison fut à partir de 1980 autre chose, la caverne d'un solitaire au narcissisme bon enfant qui recevait la presse ou les flics à demeure. Il aimait bien recevoir des policiers à la maison et il leur demandait toujours de laisser un petit souvenir, des menottes ou des trucs comme ça. Figé en sanctuaire depuis la mort du chanteur, c'est fou la passion que déclenche Gainsbourg dans le chat, c'est marrant. Figé en sanctuaire depuis la mort du chanteur le 2 mars 91, le 5 bis a laissé son unique propriétaire, Charlotte, qui avait racheté les parts en fait à ses frères et sœurs, écartelée entre l'envie d'en ouvrir les grilles et de garder jalousement pour elle seule ce legs. La première des solutions a fini par s'imposer, donc ouvrir les grilles. Serge Gainsbourg aimant lui-même qualifier sa maison extravagante de musée, indication que sa fille considéra, faute d'instruction précise, comme un souhait. Voilà. Et vous avez donc un gros dossier, en fait, je ne vous ai pas mis toutes les pages, qui décrit un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver dans cette maison. Il manque quelque chose dans ce dossier. Je vois beaucoup commenter l'œuvre de Gainsbourg, certaines chansons. L'homme aimait, c'était même pas choqué en fait, il était au-delà de vouloir choquer, il aimait provoquer Gainsbourg. Dans ses interviews, rappelez-vous du billet de banque incendié devant Drucker, effaré, rappelez-vous d'un état totalement alcoolisé où il va interpeller Whitney Houston de façon, on va dire, assez peu poétique. Et effectivement certaines chansons extrêmement provocantes, notamment l'une en duo avec sa fille Charlotte, que vous êtes nombreux certains à évoquer depuis le début de cet échange sur Gainsbourg. Il n'y a rien là-dessus.
Vous avez 5-6 pages sur la maison, sur le musée, et vous n'avez pas au moins une page ou deux sur, pour expliquer à ceux qui n'ont pas connu Gainsbourg ce qu'il a fait, d'où il venait, quelles étaient ses thématiques, ses albums, le rapport au public, etc. C'est dommage, c'est dommage. Je vous lis, je remercie la Mangouste 85 pour ce deuxième mois d'abonnement, et j'ai Costa 56 pour le Prime. Kilibrose, je ne sais plus si je t'ai remercié pour le Prime, merci à toi. Alors, ah, évidemment, le personnage ne laisse pas indifférent. Alors, je vois plein de choses assez différentes dans le chat, comme Balancia qui écrit « Ça change de notre époque où tous les artistes sont tous de gentils, bienveillants, wokistes. » C'était pas chez Drucker le billet de banque ? C'était chez qui alors ? Le billet, c'était chez Pollack ? Ah merde ! Persuadé que c'était chez Drucker. C'était pour illustrer ce que lui prenaient les impôts. Vous avez peut-être raison, c'est peut-être... peut-être chez Pollack.
Ça vous a fait peur d'ailleurs.
Donc on avait tous tort, hein, parce que ça c'est clairement pas le plateau de Pollack et c'est effectivement pas Drucker.
D'ailleurs. Ah, vous pensez
oui, j'aimerais qu'il soit.
Mais c'est pas là le billet là. C'est autre chose ça. Ah si, ah bah si, c'est là. Provoque ou bourré ? Un peu les deux, ça dépendait. Eublis. Il ne cachait pas qu'il avait un petit souci avec l'alcool, effectivement. C'est marrant, ça provoque beaucoup de colère. Le personnage provoque tellement de colère. Alors qu'il n'est plus là depuis longtemps, c'est marrant. Oui, Clément Polito, tu as raison. Il est taxé à 75% sur sa tranche. Ici, on le répète régulièrement. Hein. La différence entre le taux marginal d'imposition et le taux moyen d'imposition. Quelqu'un qui est dans une tranche à 74% d'ailleurs. C'est, aujourd'hui, la tranche maximale, c'est quoi, 50 ? 45 marginal, il n'est pas taxé à ce niveau-là sur tous ses revenus, mais sur la partie de ses revenus qui dépasse une certaine tranche. C'est vrai. Voilà, beaucoup d'incompréhension, de colère, le pas là, coco, je ne comprends pas ce qu'on lui trouve, des magots en plus. Voilà, Kazna, venant d'une génération arrivée après sa carrière, et moi, c'est ce que je constate effectivement. Hein. C'est que chez les plus jeunes, c'est beaucoup ce regard qui est porté sur Gainsbourg, qui est un regard qui n'est pas très positif. Kazna écrit « Ça m'a toujours saoulé d'entendre si souvent parler de ce gars comme d'une idole glorifiée, alors qu'il m'apparaît comme un alcoolique insupportable. » Voilà. Alors, c'est pas l'avis de Lolo Tilou qui dit « Non, mais les polémiques, ok, mais sinon on parle du fait qu'il soit le plus grand génie de l'histoire de la musique française. » Voilà. Je vous lis. La condamine vient de réserver sa place pour le musée pour novembre. 12 euros ça coûte, me dis-tu. Ouais, l'interview avec Whitney Houston, pour le coup, ça, c'est, on est d'accord que ça ne le faisait pas. Alors, MMG7F rappelle que Gainsbourg, c'est aussi l'année suivante de cette séquence dans le jeu de la vérité chez Sabatier. C'est 100 000 francs qu'il donne à Médecins Sans Frontières qui œuvrait pour l'Éthiopie. Étonnamment populaire à l'international, me dit Xerboul, mais c'est vrai que pour notre génération, on n'a pas tant que ça entendu parler, il me semble. Moi, j'ai l'impression que Gainsbourg, il a été quasi oublié, en fait. C'est fou, c'est fou que
La tension et la colère que ça provoque encore. Père de Alan, De Palmas, Goldman, Gilbert, ce sont des génies. Lui, juste un pitre utilisé par les médias. Jadot, donc c'est une merde, mais on le tolère parce qu'il s'est aligné deux accords. Génie galvaudé, selon Tsuka. À mon avis, de nos jours, un Gainsbourg, il est cancel, me dit Elsios. Ne me parlez pas de séparer l'homme de l'artiste. Défécateur officiel rappelle une autre interview problématique qu'avait Catherine Ringer, hein, d'Erita Mitsuko, qui était très compliquée aussi. Ouais. C'est le souci, j'ai quand même 31 ans, me dit Kasna, le mec ne me parle pas du tout. Musicalement intéressant, mais bien trop problématique, me dit Fanny, sur plein de points, on ne peut pas nier ça. Oublié, oui, Gainsbourg, me dit Néo, parce qu'il ne correspond plus aux valeurs véhiculées aujourd'hui. Il a beaucoup fait pour la musique, me dit Tayandi. Il ramenait des talents des États-Unis. D'ailleurs, il apportait beaucoup de nouveautés dans le style et dans la façon de créer la musique. Musicalement, Gainsbourg, chaque album de Gainsbourg, c'était souvent d'incroyables surprises. Hein. Je vous lis avec beaucoup d'intérêt. Doit-on séparer l'artiste de l'œuvre, Fringal ? C'est toute la question. Alors, puisqu'on parle de Gainsbourg, le compositeur, musicien de jazz à la base, hein, nous rappelle Anto Atana, et utilisation de la musique classique dans certains morceaux. Ouais. Il avait une grande culture musicale. Dave McFly, sa façon de s'en foutre plaisait à beaucoup et énervait les autres. Ouais, c'est ça. C'est bien, chose bien résumé, je trouve, la position de Gainsbourg par rapport à son époque. Hein. Vous êtes quelques-uns à m'interroger sur mon regard sur Gainsbourg, bah, qui a un regard générationnel, qui a un regard d'un mec qui est né en 71. Et Gainsbourg, de son vivant, était énormément discuté, enfin c'était un créé énormément de polémiques, mais pas celle d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est toujours compliqué de juger un homme du passé avec les valeurs d'aujourd'hui, en fait c'est ça qui est compliqué, c'est vrai pour tout, c'est à dire que comment, enfin ça n'a pas de sens, enfin, c'est tellement facile. Comment juger un homme du passé avec les valeurs d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse partie de ce que je peux lire dans le chat aujourd'hui sur le personnage, qui était détesté par plein de gens à mon époque, hein, mais pour d'autres raisons, ses provocations, ses prises de position, son alcoolisme, effectivement, qu'il mettait en scène, etc. Mais en revanche, il y a des choses qui lui sont reprochées aujourd'hui, que je lis ici, qui sont liés aux valeurs d'aujourd'hui, qui n'étaient pas des valeurs qui étaient mises en avant de son vivant à lui, quoi. Alors, est-ce qu'on doit rejuger tous les personnages comme ça, historiques, qui ont évolué dans un bain culturel de valeurs datées avec nos valeurs d'aujourd'hui ? C'est comme quand, en matière d'éducation, par exemple, hein, quand on a ce débat sur l'éducation des enfants ici, Et que je rappelle régulièrement que à aucun moment toute forme de violence sur un enfant n'est pas acceptable, qu'elle soit physique ou psychologique, et que on se rappelle que du temps de nos parents, de nos grands-parents, le discours dominant étant une petite fessée, sinon une bonne gifle de temps en temps, n'a jamais fait de mal à personne. Ce que certains pensent encore aujourd'hui, et là c'est plus grave. Et je vous dis, mais ne jugeons pas les parents et les grands-parents sur des comportements éducatifs qu'ils ont pu avoir à une époque où les études des sociologues, des psychologues sur l'enfance n'était pas aussi poussé. Voilà. On ne juge pas les aînés avec les valeurs ou le fruit des recherches qui sont intervenues après eux, en fait. Vous voyez, de la même manière que je n'aimerais pas être jugé dans 50 ans, à l'aune des valeurs de 50 ans, de même que vous, vous n'aimerez pas ça non plus, sur des choses dont on n'avait pas conscience. Quoi. Vous voyez ? Donc là, c'est un peu pareil, Gainsbourg. On peut avoir le droit de condamner une chanson, un texte ou des prises de position, mais à un moment, il ne faut pas oublier que voilà, c'était une autre époque. Non, il ne s'agit pas d'excuser. Hein. Il y a Kim qui dit, c'est intéressant, je ne suis pas vraiment d'accord, dans ce cas-là, on va excuser l'apartheid. Attends, on n'excuse pas. Hein. C'est juste qu'à un moment, se draper dans son joli manteau des bons sentiments, c'est tellement facile, quoi. Alors, personne ne cherche à excuser l'apartheid, personne ne cherche à excuser les comportements problématiques de M. Serge Gainsbourg. Quel intérêt ? Puis, qui sommes-nous, d'ailleurs, pour excuser ou pour juger, hein ? Mais en revanche, à un moment, il faut juste savoir, en fait, connaître le contexte. Sinon, vous allez passer votre temps à trouver que vous êtes des gens formidables et que tous les gens du passé étaient problématiques, quoi. C'est un tout petit peu facile, quand même. Voilà. Voilà. Un regard critique sur le passé, oui. Ça, d'accord. La loutre des sables. Mais il faut remettre dans un contexte. Pas pour excuser, pas pour pardonner. Hein. Sinon, n'importe quel ado de 14 ans un petit peu sensible aux valeurs d'aujourd'hui va juger sans arrêt tous les comportements historiques à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'aime bien ce débat. Moi, c'est ça. Ça s'appelle contextualiser. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Sinon, vous passez à côté du truc, en fait. Sinon, vous passez à côté du fait qu'à l'époque, il était critiqué pour plein de choses, mais pas pour les choses pour lesquelles on l'attaque aujourd'hui, en fait. Sinon, vous jugez, en fait, vos parents et vos grands-parents qui, souvent, étaient choqués par le personnage, mais pour d'autres raisons que vous, quoi. C'est ça aussi. Donc, chaque génération ne va pas juger la génération d'avant. Ça n'en finit plus, en fait. Comme le dit Bisoupf, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a une différence entre juger les gens de l'époque, juger et les excuser. On juge, on condamne, on dit que c'est pas bien, on dit qu'on a évolué, qu'on est sans doute meilleur sur des points, mais on les excuse pas, quoi. Et comme le dit Fanny, nous serons, nous aussi, les ordures de demain, ne vous inquiétez pas. C'est ça, en fait. Voilà. Sachez que vos comportements d'aujourd'hui, que certains trouvent tellement éclairés, tellement subtils, intelligents et prenants et ouverts, vous serez dans 50 ans les ordures de la génération d'après, quoi. Et à un moment, ça n'a pas de sens, en fait, ça. Ça n'a pas de sens. Donc condamner, oui, juger, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Une petite nuance. Une petite subtilité. Allez, on passe à autre chose. D'autant que j'ai besoin de vos lumières sur autre chose. Gainsbourg, bon, vous y allez pas, vous n'êtes pas obligé de toute façon. Il y a plusieurs mois d'attente, même si vous voulez pas y aller, je pense que c'est pas très très grave. Moi, j'irai pas. Parce qu'effectivement, pour dire le fond de ma pensée, j'ai aimé Gainsbourg en tant que compositeur, parce qu'il a vraiment révolutionné un truc à l'époque. Ses provocations ne me fascinaient pas, c'était pas ça qui m'intéressait. Musicalement, il y a vraiment des textes et des musiques surtout qui m'ont touché. En revanche, je n'irai pas visiter cette maison parce que je ne suis pas nostalgique de cet homme et de cette époque. Puisqu'effectivement, on a changé et on a avancé sur des trucs. Donc, aucune nostalgie de mon côté. Je ne voue pas un culte à Gainsbourg. Mais encore une fois, ouais, il faut pas juger le passé avec les valeurs d'aujourd'hui. Sinon, ça n'a aucun sens. Allez,
Alison Wheeler, bah pour le coup, on s'intéresse à quelqu'un de notre époque qui a illuminé l'humoriste, l'émission quotidienne de Yann Barthès pendant 5 ans, et c'est fini. Et c'est fini, nous dit Le Parisien. Après 5 ans passés dans la bande de Yann Barthès, donc, Alison Wheeler quitte l'émission pour se consacrer à son premier spectacle, La Promesse d'un soir, qui va mêler stand-up, vidéo et chanson, parce qu'elle chante bien. Alison Wheeler change de quotidien. Voilà, c'est un article du Parisien. Elle est ce soir d'ailleurs dans Quotidien, mais pas en tant que chroniqueuse, en tant qu'invitée, puisqu'elle se lance dans la création de son premier seul en scène, La Promesse d'un soir, dans lequel elle jongle entre les formes, ce qu'on vient d'évoquer. D'où vient cette volonté de monter sur les planches, demande Le Parisien à Alison Wheeler. La question, c'est plutôt, répond-elle, elle vient d'où cette volonté de faire tout sauf de la scène, en fait? Puisque c'est son premier spectacle. Refus d'obstacle, se demande Le Parisien. Elle répond oui, je valorisais ça tellement, la scène, que je craignais d'y aller. La scène, longtemps, je n'ai pas osé, dit-elle. J'avais trop peur de me prendre des vents. Je m'en veux de ne pas y être allé avant. C'est tellement plus doux que ce que j'aurais imaginé. Un spectacle, c'est une faille spatio-temporelle. Les gens ont coupé leur téléphone. Il fait noir et ils écoutent. Il n'y a pas de moment comme ça dans la vie. La Promesse d'un soir, donc là je crois que ça part en tournée en toute la France et ça arrive à Paris à partir du 12 décembre. Et je vous en parle parce que Alison Wheeler sera notre invitée dans l'hebdo Étienne, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après. Oui, je crois qu'elle a une très jolie voix. Poissman me dit, elle chante, ouais, elle a une très jolie voix. La Mangouste 85, merci pour le soutien. Alors, il y a les gens qui adorent, il y a les gens qui adorent Alison Wheeler, d'autres qui aiment moins. Ouais. Elle était totalement barrée, se rappelle Mika Baron, de ses prestations au quotidien. J'adore. Ouais. Diesel aime bien aussi, d'autres aiment moins. Bon, en tout cas, elle viendra et je suis content. C'est pas facile hein, pour des artistes de sortir de leur zone de confort pour parler de l'actualité. Et quand je dis artiste, je pense aussi aux créateurs de contenu. En vrai, bon, un journaliste qui analyse, se penche un peu sur l'actu, c'est un truc un peu basique. Mais vous savez que dans l'hebdo Étienne, j'invite des journalistes, des youtubeurs, des streamers et des artistes, parfois des humoristes comme Poulpe notamment, ou Arnaud de Samer qui va revenir d'ailleurs dans pas longtemps. Et c'est pas facile en fait de sortir de cette zone, en fait, de prendre position parfois. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Et Alison Wheeler, donc, avec qui j'ai discuté récemment, eh bien, viendra à la maison. Ouais, je suis assez fier de ça. Tonton Buzz, à propos d'Alison, nous dit « Elle est très bonne actrice dans les vidéos de Studio Bagel. À mon avis, un jour, elle aura un rôle qui va la propulser au top. » Bon, on lui posera une question. Je ne sais pas qui est Marie Sistite, mais DH me dit qu'elle était géniale en Marie Sistite. Sur France Inter, j'adore. Ok, on enchaîne sur un rythme d'enfer. GTA, quasiment une pleine page dans le Figaro de ce jour sur GTA 5, sur le succès inouï de ce jeu vidéo. Voilà, le regard des médias traditionnels sur les jeux vidéo, c'est pas qu'il est en train de changer, c'est qu'il a changé. Là, c'est Chloé Wattier qui écrit de très bons articles dans le Figaro sur le numérique, sur l'univers du jeu vidéo. GTA V, donc une décennie d'un succès hors norme pour l'industrie du jeu vidéo, vendu à 185 millions d'exemplaires. Ce jeu a généré près de 8 milliards de dollars de recettes depuis 2013. C'est parti. Strauss, moi les chiffres m'ont totalement donné le tournis. Strauss Zelnick, le PDG de l'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two, n'a pas pu réfréner un petit rire de satisfaction. La franchise GTA est sans doute la plus rentable de l'histoire du divertissement. C'est ce qu'il a dit le mois dernier sur la chaîne économique CNBC. Né en 97 quand même, la saga a longtemps cultivé une réputation sulfureuse en renversant les normes du jeu vidéo. Le joueur n'incarne pas un justicier, mais un malfrat qui va s'élever dans la hiérarchie du crime organisé, le tout sur sous fond d'une critique mordante de l'Amérique moderne. GTA aujourd'hui, la pierre angulaire des finances de Take-Two, puisque son dernier opus, GTA 5, est chaque trimestre l'un des principaux moteurs de croissance du groupe. Tour de force hors norme pour un jeu qui a fêté dimanche ses 10 ans et traversé avec panache 3 générations de consoles. 17 septembre 2013, c'est une date importante dans l'histoire du jeu vidéo. La sortie de GTA 5 faisait les titres de la presse à travers le monde avec ses 250 millions de dollars de budget. Cette immense aventure dans un pastiche de Los Angeles était l'un des jeux les plus chers à produire à l'époque. L'investissement, donc 250 millions de dollars, c'est quand même fou, hein, a été largement amorti, puisque trois jours après sa sortie, ce jeu qui avait coûté 250 millions avait généré 1 milliard de dollars de recettes, ce qui est ouf. 10 ans plus tard, le compteur approche désormais les 8 milliards de dollars. Cela représente autant que les box-office cumulés des deux films Avatar et Avengers Endgame. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, hein ? À ce jour, 185 millions d'exemplaires de GTA V ont été écoulés, plus de 5 millions en France. Aux États-Unis, il est le jeu vidéo le plus vendu de la décennie. En volume, en valeur, hormis Minecraft, peu de jeux vidéo peuvent se targuer d'une telle performance et le chiffre continue de progresser puisque GTA V se vend encore à 5 millions d'exemplaires par trimestre en moyenne, score dont rêveraient bien sûr plusieurs acteurs du secteur. Pourquoi ce succès ? Je pense que vous êtes capable de me le dire. Trois facteurs selon le Figaro expliquent cette surprenante vitalité. Le titre a atteint un statut à part entière dans la pop culture, il est devenu indispensable. Il a été retravaillé pour chaque nouvelle génération de consoles, version PlayStation 5 publiée en 2022 par exemple. Et son mode en ligne GTA Online accueille plusieurs fois par an du contenu inédit. Votre avis, vous, sur le succès de ce jeu d'ailleurs ? Dave McFly, je l'ai acheté déjà sur deux plateformes. Il faudrait penser à arrêter de jouer à GTA 5. Sinon... Excellent. Il y a un fabuleux Nem qui dit « Faudrait penser à arrêter de jouer à GTA 5, sinon ils vont jamais sortir un 6. » Mais tu as tellement raison. Vous allez voir dans l'article plus tard, effectivement. L'une des raisons du fait que GTA 6 met beaucoup de temps à sortir, c'est parce que le 5 continue à marcher très fort. En fait. C'est très juste ce que tu dis. C'est très juste. Un jeu qui sort sans bug, pas de DLC payant, pas de Battle Pass, et ça marche, me dit Elias. Bonjour Samuel, quels seraient tes conseils pour être aussi éloquent que toi ? Je ne suis pas éloquent, Azredia, mais c'est très gentil. Café peut-être ? Succès mérité, me dit Dark Cullen. Il était bien parce qu'on pouvait jouer trois personnages en même temps, me dit Nico Manga, et ça je ne le savais pas. J'espère bien jouer à GTA, bien sûr. Je l'ai acheté sur trois plateformes, me dit sur la gaffe. Succès mérité, me dit Frenchy Oguio. Le jeu est tellement unique en son genre, beaucoup copié, jamais égalé à mes yeux. C'est surtout la communauté de modeurs hein, qui ont redonné un souffle au jeu, me dit Sekale. C'est un jeu vieux de 10 ans qui enterre techniquement des AAA de 2023, me dit Jongleur. Jeu incroyable. Vraiment abouti, me dit Boule de la Neige, très varié, même la bande son est énorme. Beaucoup trop bien fait, ce jeu. Il arrive à apporter de la nouveauté régulièrement, mais on veut le 6 quand même, me dit Pchik 9. Meilleur jeu ouvert ever, me dit Mac Z8. Merci, moi c'est Léon pour ce soutien. Merci. Merci Horacio. Ma grand-mère dit que c'est la décadence, elle vous fait un bisou. J'embrasse ta grand-mère. J'aime vos commentaires sur GTA, c'est vachement intéressant. Log Zero Fox, mastodonte du jeu vidéo, très bien développé, sans souci à sa sortie, très bien maintenu en vie par le studio, grosse couverture par les youtubeurs, grande liberté dans le gameplay, réussite évidente. Serp Durp, GTA 5, jeu exceptionnel avec un statut spécial en raison de son mode ouvert impressionnant, de son scénario riche, avec donc trois personnages, de son gameplay varié, de ses graphismes réalisés, de son contenu en ligne en constante évolution, de sa satire sociale. Oui, le Figaro en parle, de sa longévité qui en font une expérience de jeu complète et divertissante. J'ai tellement envie de découvrir ce truc.
Incroyable. Incroyable. Merci Founti, comment vas-tu ? Merci pour le 21e mois. Alors poursuivons l'article qui se penche sur le succès économique de ce jeu aussi, hein, qui explique d'ailleurs pourquoi GTA 6 n'est pas sorti. Donc GTA Online est une poule aux œufs d'or pour Take-Two, le studio américain, inclus dans GTA 5. Ce mode connecté permet d'acheter une monnaie virtuelle, c'est vrai ça ? Et GTA Dollar pour progresser plus vite, c'est vrai ça ? Et les joueurs ne s'en privent pas. Depuis 2020, Take-Two récolte chaque année plus de 2 milliards, mais c'est dingue, de dollars d'achat de monnaie virtuelle pour l'ensemble de son catalogue de jeux pour console et PC. C'est bien ça, le fait de pouvoir acheter des GTA dollars pour progresser plus vite. Mais c'est bien ça, c'est positif ou c'est un peu regrettable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais ils en donnent beaucoup et tu peux en gagner en jouant, me dit Evil. Non, c'est pas fou, me dit Voxel. Ouais, 2 milliards par an. 2 milliards par an, mais pour l'ensemble des jeux du studio. Hein. Ouais. C'est honteux, me dit Joliox. C'est regrettable, me dit tout le monde. C'est regrettable, c'est immonde. Ok, d'accord. Ça dépend comment c'est fait. Ouais, c'est un business model, me dit Magellan. Ok. Ok. Après, comme le dit Pépette SA, l'achat n'est pas utile absolument. Le jeu est très bien équilibré. Bon, tant mieux. Question. Ah voilà, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, arrêtez de jouer à GTA 5, ils ne vont jamais sortir le 6. Le Figaro le dit. Au vu de cette rente, des milliards que le jeu continue de rapporter au studio Take-Two, l'éditeur n'a pas pressé son studio de production Rockstar à sortir une suite. Ce dernier travaille depuis plusieurs années, depuis GTA 6, dont les premières images ont fuité en 2022 à la suite d'un piratage des serveurs de l'entreprise. Quand sortira GTA 6 ? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, on ne le sait pas. L'éditeur fait planer le mystère tout en distillant un indice. Nous lancerons des jeux révolutionnaires durant l'année fiscale 2025 qui nous permettent d'atteindre plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit un bond de 50% en un an. Take-Two, le studio, annonce une année fiscale 2025 énorme en termes de chiffre d'affaires. Ouais, ouais, Ramdoula, ça parle en chiffre d'affaires, ça parle en année fiscale. Ouais. On sent que ça cherche un peu la thune là. Donc, est-ce que ce serait pour 2025 ? Bon, voilà. En tout cas, les chiffres sont totalement insane, incroyable. Quand GTA fait du GTA, commente MMG. D'ailleurs, respect au gamin qui avait piraté d'avoir réussi à se faire passer pour fou, dit Sturp, et donc qui a esquivé les poursuites. Ouais, 2024, 2025, on verra. Ok. Bon, avant que ça sorte, il faudra que je joue à GTA 5, moi. Quel est le haut ? Dites-moi quel est le meilleur streamer, la meilleure streameuse, le meilleur gamer, la meilleure gameuse à inviter sur GTA 5. Je note tout de suite et j'invite Sam. Moment ? Ah, moment, j'adore. Je vous lis, hein. La salle. Cyril MP4. Que j'ai croisé au GP, je crois, au GP Explorer. Amine. Moment. La salle. Cyril MP4. JL Tommy. Inox. Les noms qui reviennent le plus souvent, c'est quand même Moment. La salle. Amine. Ok, intéressant. Ouais, la salle, mais pas Jean. Ouais. Ok, j'ai la ref. Ok, Amine, en vrai, ça me plaît, je serais tellement heureux, quoi. Et JL Tommy, ok. JL Tommy. Je le note. Ok, ok, parce que je pense qu'il faudrait... Inox est peut-être pas assez pédagogue, me dit Yofar, ouais. Bon, il va se moquer de moi encore, comme d'habitude. Ouais. Ok. 100% maman. Ok. Ok, ok, ok. Cool, c'est noté, c'est noté, c'est noté. On va finir avec un article sur les médias audiovisuels. C'est un article du Monde, page 22. Les médias, les télés, les radios aussi, qui courent après les jeunes. Les jeunes ne regardent plus la télé, ils n'écoutent pas la radio et ils lisent pas les journaux non plus. Et eh bien, les médias audiovisuels essaient de rattraper ce retard. De plus en plus délaissés au profit des réseaux sociaux, les chaînes de radio et de télé imaginent des nouveaux formats d'information. Donc ça y est, en cette rentrée, il y en a au moins deux nouveaux formats pour les jeunes. Quand on dit jeunes, c'est vraiment jeunes, hein, c'est plutôt au moins 18 ans. Est-ce que ça va marcher ? On verra. Plus question de les laisser partir sans rien faire, écrit Le Monde, alors que les ados écoutent moins la radio et s'éloignent toujours plus des JT. En cette rentrée, il y a urgence pour les médias à tenter de les retenir. Voire de reconquérir même ces jeunes auditeurs et téléspectateurs qui font de plus en plus confiance aux réseaux sociaux pour s'informer. Selon un rapport de l'Institut Reuters publié en juin, la majorité des utilisateurs dans le monde des plateformes sociales, TikTok, Snapchat, Instagram, soit respectivement 55% et 52%, d'y accorder son attention aux célébrités, aux influenceurs en matière d'information. La nécessité de renouvellement du public se fait d'autant plus prégnante que le vieillissement de l'âge moyen du téléspectateur se confirme d'année en année. L'âge moyen du téléspectateur du JT de France 2 était de 63 ans pour la saison 2022-2023. L'âge moyen du téléspectateur des JT de France 2, l'âge moyen, 63 ans, donc c'est âgé. Idem pour la radio. En 2003, l'âge moyen des auditeurs de France Info, la radio par exemple, était de 48 ans. On est désormais à 52 ans, même 55 ans, pardon. Vous voyez, 55 ans, l'âge moyen des auditeurs de France Info. Si on veut que la marque France Info continue d'être une référence pour les jeunes, il faut qu'on trouve de nouveaux moyens de s'adresser à eux sur le bon canal, de la bonne manière, dit notamment Estelle Cognac, qui est directrice du numérique de France Info. France Info qui a, je parle de la radio, confié la mission d'élaborer un journal quotidien de 5 minutes pour les 15-25 ans au journaliste Léo Techer. Depuis le 1er septembre, le podcast « Ça dit quoi ?», donc c'est tout récent, est mis en ligne du lundi au vendredi à 7h. Il est disponible sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, sur Internet, sur Instagram, sur l'application de Radio France. Il s'inspire d'un format suisse qui s'appelle le Short. Et les éditions sont constituées de sujets qui sont ciblés. Je veux, dit le présentateur Léo Techer, aborder des thèmes de société qui touchent les jeunes, la précarité, le logement, le sexisme en ligne, le harcèlement, le genre, la sexualité. Donc Léo qui dit que quelque part il adapte un petit peu les thèmes qu'il évoque à son public. Le trentenaire décrypte aussi l'actualité internationale, les grands faits politiques, mais également le sport, la culture au sens large, cinéma, musique et jeux vidéo, heureusement. Contrairement à plusieurs titres de presse écrite, Parisien, Le Monde, qui proposent des formats pensés pour le jeune public sur les plateformes sociales depuis déjà une dizaine d'années, l'audiovisuel a un petit peu tardé à réagir. L'explosion de la désinformation et du complotisme accéléré par les réseaux sociaux a fini par convaincre les télés, les radios. Il y a un besoin urgent d'éducation aux médias. Qui dit ça ? C'est Thierry Tuilier, qui est le patron de l'info de TF1. Alors, France Info, la radio, lance un nouveau format donc à la rentrée avec Léo Techer, qui s'appelle donc Ça dit quoi ? Et vous avez France Télévisions qui lance au même moment un nouveau format, C'est quoi l'info ? Nouveau rendez-vous d'info de 5 minutes, ça a été lancé hier, avec pour but d'intéresser les adolescents de 12 à 18 ans, donc un public plus jeune encore. Les journalistes Nasser Boubaker, que je connais, et Camille Dahan animeront ce programme à tour du rôle dans un studio rappelant ceux des streamers en ligne, tiens, comme par hasard. Le format que Le Monde a pu visionner sera diffusé du lundi au vendredi à 18h sur YouTube, mais aussi à 18h05 sur la chaîne de télévision France Info. Les parents peuvent être prescripteurs et la montrer ensuite à leurs enfants. Imagine Célia Mériguet, qui est directrice de l'information numérique à France Télé. Des extraits seront aussi visibles sur Snapchat et TikTok. Pour se mettre à la portée des ados, hors de question par exemple d'utiliser le jargon qu'on entend parfois dans les JT, genre locataire de la place Beauvau quand on veut dire ministre de l'Intérieur. Donc là, on a vu France Info la radio, on a vu France Télévisions. Du côté de TF1, il y a aussi une nouveauté. Le journaliste Paul Larouturou travaille uniquement désormais pour le numérique et les réseaux sociaux de TF1. Info à travers différents formats, en direct à la manière du média 100% vidéo brut et des reportages montés en vidéo verticale pour les réseaux sociaux. L'ancien de l'émission Quotidien d'ailleurs va essayer de séduire les 15-35 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que le hasard veut que Paul Larouturou vient, vous allez me dire tu reçois tout le monde, j'essaye, Paul donc, qui s'occupe donc de l'info numérique à destination des plus jeunes sur TF1 désormais, il est l'invité de l'Hebdo Étienne vendredi, là ce vendredi. Ouais, je fais feu de tout bois en cette rentrée, vous avez les meilleurs. Et BFM, ouais, si c'est cool, ouais, vous saviez pas ? Non, je vous l'avais pas dit. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse là-dessus. Paul, il est super occupé. Il vient à la maison vendredi. Je suis très content. J'ai une line-up là vendredi, quand je vais poster le visuel, je me dis, ah ouais, ça va. Alors BFM tente le coup aussi. BFM qui vient de recruter le journaliste Tanguy de Lanlay en tant que grand reporter digital. Ce dernier parcourt la France pour couvrir l'actualité avec son smartphone sans caméraman. Tous ces nouveaux formats présentent des points communs, montage nerveux, rapide, avec des effets visuels, sonores, le choix d'un journalisme incarné aussi, c'est-à-dire avec un présentateur, présentatrice qui se met en avant, un peu comme un streamer peut le faire. Salut, c'est Léo de France Info. Répond au salut, c'est Tanguy de BFM. L'info a longtemps été la star sur France Info, mais les jeunes générations ont envie de proximité. Elles ont été habituées à ce que donnent à voir les influenceurs, commente Madame Cognac. Le tutoiement ou leur dire que j'ai mal dormi à cause de la canicule, ça peut créer un lien et n'empêche pas d'être fiable dans l'information, dit par exemple Léo Teicher. Je vais vous lire, hein. Vos commentaires m'intéressent. La route pour reconquérir la jeunesse s'annonce longue, dépendante de la bonne volonté des plateformes comme Spotify ou TikTok, qui modifient parfois leurs algorithmes de mise en avant des contenus. Pour le moment, les directions de France Télévisions et de Radio France se refusent à donner des objectifs d'audience pour la saison. Les tentatives de la télé et de la radio de reconquérir un public jeune avec ces outils-là, ces initiatives, qu'est-ce que vous en pensez ? PR de Alan me dit BFM, ils ont du boulot à faire s'ils veulent faire oublier leur image. Très bonne blague de Cyril, un journalisme incarné, est-ce que ça fait moins mal qu'un ongle incarné ? Eva Rock était géniale, me dit Sadine Live. Eva qui était à la maison vendredi dernier, que j'aime beaucoup. PR de Alana à nouveau, ils ont compris que les jeunes ne veulent plus se faire gaver comme une oie de Noël par des infos inutiles ou fausses ou connotées d'abord politiques. Il en a fallu du temps. Nobilito, merci beaucoup pour ton soutien. 5 minutes le JT pour les jeunes, super idée. On voit qu'ils ont bien compris, me dit Ashla Funigan. De toute façon, les médias ont raté le tournant numérique et veulent rattraper leur retard. Ils veulent imposer leur processus de au lieu de s'adapter et de comprendre comme tu l'as fait, Samuel. Bon, c'est surtout grâce à vous, ça, parce que vous m'avez un petit peu pris par la main quand même. Je vous lis. Hein. Ils veulent tous piquer le public d'Hugo Décrypte, estime Yes Benjamin. Bah, Hugo, je le retrouve tout à l'heure à la maison de la radio d'ailleurs. Ah, c'est les audiences, ça. Diesel, tiens, est-ce que Papy Sam n'avait pas le nez creux et un temps d'avance ? Alors, sachez que, et je vous demande vraiment de me croire là-dessus, il n'y avait pas d'intention de ma part. C'est-à-dire que quand je suis venu sur Twitch, je n'avais pas d'arrière-pensée. Quand je suis venu sur Twitch, invité par Étoile pour la nuit de la culture, au cœur du premier confinement, il y a juste. Comme je suis hyper curieux, mais je connais pas ce truc, c'est quoi cet outil, c'est quoi Twitch, comment vous l'utilisez, mais le chat, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, voilà. Et donc curieux, invité par Étoile, invité par Ponce, invité par des streamers chez eux, invité aux The Event, et je me promène, je découvre sans aucune arrière-pensée et sans même réfléchir à tout ça, quoi. Et puis comme je suis pas très rapide, au bout de 9 mois, je me demande et je demande à mes interlocuteurs et notamment Étoile, mais est-ce que tu crois que moi aussi malgré mon âge avancé et ma formation très classique, est-ce que tu crois que je peux utiliser cet outil pour faire autre chose, pour faire de l'info ? Étoile me dit, tu penses à quoi ? Je lui parle des journaux et de la revue de presse. Mais en fait, je mets 9 mois quand même à avoir cette idée. Et donc, ce n'était pas vraiment une histoire de nez creux ou d'avoir raison avant les autres. C'est juste qu'en fait, j'étais là au bon moment, par hasard, et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres, notamment Rayou, en fait. Voilà. Et après, moi, je suis pas tellement dans le calcul pour savoir ce qui va marcher, plutôt dans un truc beaucoup plus égoïste de est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça m'amuse ? Est-ce que je kiffe cet outil ? Est-ce que j'ai du plaisir ? Et en fait, j'en ai eu tellement à streamer dès le début que après, vous connaissez la suite, je m'y suis investi de plus en plus. Mais il n'y avait pas de « Ah, les jeunes sont là, donc il faut que j'y aille. » En fait, ce n'était pas du tout ça, quoi. Par exemple, ça me plaît l'émission que j'ai lancée sur le jeu vidéo. Là, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas une tentative d'essayer de conquérir une audience. C'est juste que j'ai redécouvert la richesse de cet univers du jeu vidéo et très égoïstement, comme j'ai envie de me marrer et de passer de bons moments, donc je me suis dit quitte à se remettre au jeu vidéo, on va en faire une émission. Et voilà. Donc j'ai pas été plus malin qu'un autre, c'est juste que j'étais là au bon moment et que je suis un petit peu curieux, quoi. Et je vais rester dans cet esprit d'ailleurs. Ok, j'ai un message, j'ai un SMS du slip.fr. Voilà. Après le slip des Français, voici la chaussette. Ok, d'accord. Okay. Bon, les amis, j'enchaîne. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai besoin de vous. Ok, là, à 11h. À 11h. Je zappe l'horoscope aujourd'hui, désolé. Non, je zappe l'horoscope. Non, j'ai besoin de vous. Vous allez comprendre pourquoi. À 11h, je prends un taxi là. Dans 25 minutes. Il ne faudra pas qu'on oublie le raid. Pour aller à la maison de la radio, puisqu'à, c'est marqué midi 10, mais ça va commencer vers 11h55, je crois. Bon, disons midi. À midi, j'anime une table ronde qui, on l'a compris ensemble tout à l'heure, sera pas en direct à la radio ou en direct sur Twitch, mais qui sera ensuite disponible en vidéo sur les sites de Radio France et sans doute sur YouTube. Une table ronde, je vais prendre mon ordinateur pour prendre des notes. Une table ronde avec cet intitulé Le sport, nouveau terrain de jeu des streamers. C'est pas tellement une question d'ailleurs, c'est pas une interrogation. C'est. Oh putain, où est-ce que j'ai mis mes notes ? Putain, ouais, c'est bon. Je me suis fait une petite page de notes quand même hier, j'ai bossé sur le sujet. C'est pas une interrogation, c'est le constat que le sport est devenu le nouveau terrain de jeu des streamers. Voilà. Alors moi, je vais présenter aux gens qui seront à la conférence les invités. Donc vous reconnaissez Domingo, qui présente notamment Popcorn, Zach Nani, qui est passionné de sport, vous le savez, et Hugo Décrypte, qui est plus présent sur YouTube que sur Twitch. Et je vais leur demander au début de se présenter, d'expliquer à ceux qui seront devant cette table ronde en présentiel tout à l'heure qui ils sont et ce qu'ils font autour du sport. Voilà. Et puis après, on va échanger ensemble sur le sport sur Twitch. Alors le sport sur Twitch, c'est bien sûr les grands événements. On pense au GP Explorer 1, 2... au 11 All-Star, le match France-Espagne organisé par Amine, les audiences de fou sur Twitch. Moi, je pense beaucoup aussi à ce qu'a fait PA sur sa chaîne autour de la course à pied, du basket, du tennis, du cyclisme, donc des événements. Et après, c'est quoi aujourd'hui le sport sur Twitch ? C'est là où j'ai besoin d'un petit peu de votre éclairage. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en matière de sport sur Twitch ? Sous quelle forme ? Est-ce que c'est bien ? Pourquoi ? Comment ? Alors, je vous lis. Ouais, il n'y a pas Rivenzi, ouais. C'est pas moi qui ai fait le plateau. Rives, ça aurait été super pertinent, ouais. Peut-être qu'il n'était pas disponible, hein. C'est pas moi qui. Moi, on m'a juste demandé, genre il y a une semaine, d'animer la table ronde. Et en fait, j'ai pas fait le plateau, quoi. Bon, en vrai, c'est comme un joli plateau, quoi. Euh,
RSIT m'invite à regarder un article intitulé « Top 20 des plus gros pics d'audience jamais enregistrés sur Twitch » et il y a de nombreux événements sportifs dedans. Et oui, c'est vrai, ça, je le note, ça. Les plus grandes audiences parmi... Ouais, c'est pas mal, ça. Ok, pas mal ça. Je suis en train de fignoler mon attaque. Bien sûr qu'il faut parler d'e-sport aussi. Est-ce que, c'est une question que je poserai à mes invités. Est-ce que le sport sur Twitch, c'est pas d'abord l'e-sport sur Twitch ? Je ferai un petit coucou à Rivenzi, même s'il n'est pas avec nous. Peut-être qu'on pourrait évoquer son travail, peut-être que nos invités pourront parler de Riv quand même un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est quand même passionné de sport. Notamment les matchs du mondial de rugby, hein, de la Coupe du monde de rugby commentée par Rivenzi actuellement. Alors Nucleus me parle de RMC qui a une chaîne pour les émissions, elle s'appelle RMC Sport d'ailleurs sur Twitch. Voilà, il y a ça aussi. Je vous lis, ça m'intéresse. En fait, vous êtes en train de m'aider à préparer la table ronde quoi. Alors je connais pas bien ce que fait Trash Talk. Trash Talk, c'est du coup c'est une chaîne Twitch, c'est ça, qui parle surtout de NBA, c'est ça. Ouais, RMC diffuse des commentaires sur Twitch et ça permet de remplacer la radio pour les jeunes qui n'auraient pas le réflexe. Merci Gayou, ouais c'est vrai. Est-ce que j'ai pris des notes sur ouais RMC Sport, c'est ça ouais. Je suis en train de me demander où tu voulais m'emmener. Il y a MMA pour Suédois qui parle aussi de ces nombreuses nageuses dans leur piscine sur Twitch. Alors je ne sais pas si je vais lancer ce débat, je ne suis pas sûr qu'en 45 minutes on puisse aller sur ce terrain. Alpha te se moque et tu as raison de te moquer, mais tu prépares ta table ronde 30 minutes avant. Alors je l'ai un peu préparée hier soir, mais je comptais un petit peu la parfaire avec vous quoi. Alors très bonne question de Mortumi et de Popoli, mais est-ce que ça sera juste du sport ou de l'e-sport? Bah, moi je pense qu'il faut parler des deux hein. Bah, si vous enlevez l'e-sport, il y a quoi comme sport sur Twitch? MMA pour Suédois, bah, y a plein de streamers qui parlent de sport, qui streament du sport. Domingo a organisé un nombre quand même incalculable d'événements sportifs. GP Explorer, c'est du sport, c'est sport mécanique. Le match d'Amine, c'est évidemment c'est du foot. Ah oui, c'est vrai. Et tous les sportifs qui viennent sur Twitch aussi. Ah, pas mal ça. Il y a Gaël, mon fils. Ah, c'est pas mal ça. Bien, qui me dit ça? J'avais pas pensé. Merci Olive. Olive Big. Alors, Gaël, mon fils, je savais. Cyril Gann aussi. Cyril Gann, il vient en tant qu'invité, il a une chaîne. Ouais, Gaillou, par exemple, me dit que le sport sur Twitch, c'est quand même d'abord l'e-sport. Bien sûr que les viewing parties de sport, notamment avec la Coupe du Monde de rugby en ce moment, soit Jelly, ça s'inscrit totalement là-dedans, quoi. Alors, ça pose la question des droits après. Tiens, d'ailleurs, je le note, ça. La question des droits, parce que pour... voilà. Je pense que d'ailleurs, ça pose pas de problème de pouvoir commenter un match si tu mets pas les images. Merci, Denis, pour le 25e mois. Merci pour le 25e sucre. Ça fait beaucoup, quand même. Je vous lis. Hein. Bien sûr que le brusquet. Alors oui, comme vous participez à la préparation de cette table ronde, vous allez prendre un pourcentage de ce que je touche. Et ça, c'est normal. C'est le brusquet qui pose la question. On prend un pourcentage 1, Sam, puisqu'on t'aide à préparer cette table ronde. Oui. Voilà. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais vous donner un pourcentage assez important, on va dire 50%, de ce que je touche pour cette collab et pour animer cette plateforme. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est comme je le fais gratuitement pour Radio France, un service public, eh bien, bah, du coup, 50% de zéro, ça fait zéro. Bah, par contre, j'ai un peu de frais parce que je prends le taxi pour y aller. Donc, ça va me coûter, je sais pas moi, 30 balles pour y aller, 30 balles pour retour, 60 euros. Donc, littéralement, vous me devez 30 euros en fait. Donc, faites péter les subs. Bon, une dizaine de subs suffiront. Voilà. C'est la mauvaise nouvelle. Je vous lis, hein. Trash Talk, ok. Trash Talk, c'est une chaîne, ok. Ok. Sur la NBA, ok. Surveiller, 44, ça va encore, je suis dans les temps. Il y a Clamakin qui vient d'offrir 5 abonnements à la commu, autant dire que la moitié de mes frais de taxi sont remboursés. Clamakin, merci du soutien, c'est adorable. RMC fait vraiment des efforts pour se faire une place sur Twitch. Vous êtes pas le M8ème, t'es pas le premier à me le dire. C'est assez salué, ça, le travail sur RMC Sport. Je le dirais. Attends, je vois 1 milliard de messages. J'essaie d'en lire une partie. Ouais. Certaines personnes ne considèrent pas l'e-sport comme un véritable sport, on dit le Vulcano. Moi, je considère à tort ou à raison que l'e-sport est du sport. Quand on voit l'hygiène de la préparation des champions d'e-sport aujourd'hui dans certaines équipes, pour moi, c'est du sport. Ok. Donc Cyril Gann, il a une chaîne où il est invité sur Twitch, Cyril Gann. David Gaudieu aussi. Je suis nul, hein, parce que je ne sais pas qui est David Gaudieu. Pardon, je m'excuse. Oui, il y a France Rugby aussi. La chaîne France Rugby. Je me demande sur quel sport se penche France Rugby d'ailleurs. Il faut que je fasse une recherche. France Rugby, je sais pas s'il n'y a pas un indice. Alors Cyril Gann, il joue sur Twitch aux jeux vidéo, mais il ne fait pas de sport sur Twitch. D'ailleurs, Gaël Monfils, c'est un peu pareil. Il a une chaîne Twitch. Okay. Il a lancé une émission récemment. Ah, c'est un cycliste, Gaudu. Ok. Roland Garros qui invite. Oui, Roland Garros qui invite Rive chaque année, ouais. Ouais. C'est vrai. Bon, après, plus pour un événement e-sport hein, sur Roland. Rive, si je dis pas de bêtises. Putain, j'aurais bien passé 2 heures avec vous sur le sujet là. Mais il faut que je parte dans. Genre 5 minutes. Arrêtez avec Ferrara là, j'ai la ref. Julien Febro sur Twitch aussi, ouais, bien sûr. Vous êtes nombreux à me parler d'échecs aussi, hein, le jeu des échecs. Je suis sûr qu'ils vont t'offrir des viennoiseries à Radio France. On veut un pourcentage dessus. C'est pas faux. Peut-être moyen qu'il y ait des croissants. Ok, si j'arrive à choper deux croissants, il y en a un pour vous, que vous partagez tous. C'est en public au studio 104, Lucky Luciano. Ouais, je pars tout à l'heure. Même pas défrayé, ils sont cheap chez France Télé. On m'a pas proposé, j'ai pas demandé. Voilà, c'est le service public. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et l'argent, on y fait très attention parce que c'est de l'argent public. Donc on ne dépense pas n'importe comment. Donc on ne m'a pas proposé d'argent pour cette animation et j'en ai pas demandé. Et le taxi, je me le paye, quoi. Voilà. C'est team service public. Comme ça. Ah, je suis arrivé en bas du chat. René Coty fanboy, je suis sûr que j'ai oublié des subs, mais merci pour ton 25e mois. Athanase Charrette est actuellement Radio France et il n'y a pas de croissant, donc je vous n'en aurez pas non plus. Ah, ailleurs, il y a H. Lafungen qui n'est pas d'accord avec moi pour lui ou elle. Les champions d'e-sport ne sont pas des athlètes. Certes, ils ont des modes de vie plus sains que chips soda, mais il n'en reste pas moins que ce ne sont pas des athlètes. Sport haut niveau égale athlète de mon point de vue. Moi, je pense que pour moi, c'est du sport. Tu me trompes ? C'est pas du sport, l'e-sport ? Pour moi, c'est du sport. Tiens, question. Je vais poser la question à mes invités. Pour moi, c'est du sport, peut-être que je me trompe. Arrêtez avec le grand sportif Manuel Ferrara. J'ai la ref. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Après, on a 45 minutes hein, avec mes trois invités, là. Ça veut dire un quart d'heure chacun, plus le blabla de Samuel Etienne. Ça va aller très vite. Hein. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Là, j'ai noté des petites choses pas mal. Hein. Ok, donc je vous remercie vraiment, quoi, pour ces éclairages. Ouais, je suis d'accord. Clamakin dit les prépas physiques et mentales avant les compétitions d'e-sport sont folles. Ils se préparent comme les autres athlètes. Course, vélo, foot. Ouais. Sport, compétition, hein, dit BD Verdu. Pour moi, c'est du sport, hein. Les amis, j'ai pas mal de matos. Ouais. J'avais une page de notes et de prépa pour cette table ronde. Là, je suis à une page et demie. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Pardon de vous quitter un peu brusquement. Voilà, je vais mettre une petite veste pour être chicos. Je vous raconterai. Pas demain, parce que demain, je pars donc du côté des amis de Villebrequin pour participer à l'enregistrement d'une émission. Attendez, je vous dis si je stream demain soir ou pas. Ou si je vous retrouve plus tard dans la semaine quand même, puis on va faire un petit raid aussi. J'aimerais bien qu'on raid quelqu'un qui est en subathon. Alors, quel jour on est là ? Donc demain, ok. Donc demain matin, je pars. Ah ouais, non, demain soir, non. J'ai du taf demain soir. C'est en lien avec Samplay d'ailleurs. Donc demain soir, non. Donc pas de stream demain. Pas de stream demain. J'ai un rendez-vous à 9h. De 9h à 10h à France Télévisions jeudi. Je vais rentrer dans la nuit. Ça veut dire que où je stream après... Ouais, à partir de genre 11h, où je stream très tôt avant. Je vais essayer de caler un stream jeudi, faire le maximum, et du coup je ferai un stream vendredi matin, en plus de l'hebdo Etienne du vendredi soir, histoire de compenser le fait que je ne sois pas en stream demain. Voilà. Et puis ça me plaît, bien sûr, dimanche. Les amis, merci pour ce matin. Ça, je ferme, j'enregistre, et puis on fait un petit raid. On met pas de musique, on met pas de pause, je vous lis. Je remercie, pardon, Rixal pour le 6e mois d'abonnement, Yann, pardon, LXP pour le 11e mois, Yvaillant, merci pour le 3e mois, Clamakin encore pour les 5 abonnements, Lloyd, merci pour le Prime, Shep69, merci, Denis, je t'ai remercié, Kraken Furious, je t'ai pas remercié, merci pour le soutien. Voilà, je savais que j'avais loupé des subs quand j'ai appelé au remboursement des taxis, là vous êtes vraiment adorables. Alors, qui est en subathon là ? Qui est en subathon là ? Momo est en train de dormir. Il n'a pas lancé son subathon encore, l'ami Kenny là, qui était avec nous dimanche soir. On me dit que Momo
On me dit que maman est en train de dormir. Alors, pas cool, pas cool. Ninion, elle est en subathon. Ah oui, on m'a dit que Ninion a lancé son... Kenny, il est en subathon à partir de 19h. Allez le voir à partir de 19h. Moment, je vérifie. Donc, moment, il est en live, mais il semble être en train de dormir. Mais si Ninion... Oh, maman, il est trop chou, maman. Il est sur un... Oh, il est sur un matelas, même le sol dans son... Oh, j'adore. Trop chou. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Ninion... Elle est en subathon, je crois. C'est son premier subathon. Je vérifie. Donc, Ninion, qui est une streameuse française qui vit au Japon. Ok. Oh là là, il y a du monde en plus. Ok, c'est un début de subathon. C'est parti, c'est choisi. C'est quelqu'un que j'ai, dont j'apprécie beaucoup le travail. Elle est dans mes favoris. Hop, c'est parti. Les amis, merci pour ce matin. Vraiment, je me suis régalé. Je vous souhaite une belle journée. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Je file à Radio France pour animer cette table ronde qui va être réussie grâce à vous et à vos éclairages. On se retrouve pas demain exceptionnellement, mais on se retrouve mercredi. Je vais vous caler un truc. Demain c'est mercredi. Jeudi, j'essaierai de vous caler un stream. Vendredi matin exceptionnellement. Puis à un moment, il va falloir qu'on se mette aux jeux vidéo, quoi. Je charge le raid. Alexandra, ouais, je vais aller voir pour l'histoire du direct. Je t'ai vu. Hop, c'est en train de charger. Donc, un petit message pour Ninion. Hein, vous lui dites bon subathon. Voilà. Bon subathon. Le raid part dans quelques secondes. Merci pour ce matin, je me suis régalé. Et je vous dis à très très vite. Bon subathon, Ninion. Ciao, ciao. Merci pour tout.